Vous écoutez
RMC. RMC.
18h-20h.
Rotten Régal. François Pinet.
Jérôme Rotten.
17h59, bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten Régal, comme tous les vendredis sur RMC. Et comme tous les vendredis, en ce moment, c'est vrai que tu les accumules. François Pinet ouais. Avec moi.
Salut François, Jérôme, ça va ? Salut à tous. Ça va et toi ? T'as bien ?
Grand plaisir à faire l'émission, je sais, ça me fait d'autant plus plaisir.
Ah bah non, mais je suis très content d'être là. Ouais. Surtout que toi, t'as passé une grosse soirée hier hein, avec les 15 ans de l'after.
C'était pas mal.
J'ai dormi, je t'ai regardé.
C'était pas mal, ça.
C'était magnifique. Ouais. Et le rat, ça va ?
Le ragondin ?
Le ragondin, c'est bon.
La terrine, c'est un peu fade. Ouais, mais j'en ai pas mangé beaucoup.
Ça donnait pas envie en tout cas.
Non,
pas envie.
Jean-Michel Larquet, bien sûr, toujours avec nous. Salut Jean-Michel.
Bonsoir messieurs.
Ça va ?
Ça va ?
Passez une bonne semaine.
Tout va bien.
T'as regardé les 15 ans de l'after ?
Ah non, j'ai pas regardé les 15 ans.
C'est trop tard.
Je les ai pas écoutés parce que j'avais déjà eu une petite ressucée avec mon engueulade avec Riolo et j'ai préféré passer à autre chose.
Ah.
Voilà.
Engueulade avec Riolo ?
Oui.
Vous êtes réconciliés là, c'est bon ?
Oui, puisqu'on n'est pas dans la même émission, on est réconciliés.
Vaut mieux.
Bon. En tout cas, dans Rotten Régal ce soir, ça va être un programme magnifique. Comme d'habitude, on lance le week-end de foot, la Ligue 1 qui commence dès ce soir avec Marseille-Strasbourg. D'ailleurs, on va parler dans 30 minutes de l'OM, dans l'élève contre le maître, autour de Dimitri Payet ce soir. Est-ce que la reconstruction de l'OM passe par Payet ? Gardez vos arguments les uns les autres. On en parle dans 30 minutes. À 19h, vous le savez, le multiplex de Rotten Régal pour cette 35e journée de Ligue 1, la course au titre bien sûr avec les infos de nos correspondants à Lille, à Monaco, à Lyon. On en profitera aussi pour prendre des nouvelles de Bruno Genesio à Rennes. Je sais que tu tenais Jérôme, on va en parler
voir
à
si
19h.
Ça prend.
Bah oui, voir si
le style Genesio arrive.
Genesio,
exactement. Et puis on a
c'était que des copains Jérôme.
Ça. Ah mais c'est vrai que là tu m'as fait rêver en termes de palmarès là, j'ai
Écoutez bien messieurs, on a un super cadeau à vous faire gagner toute la semaine jusqu'au 5 avril. RMC vous offre votre place, le vol et l'hébergement pour assister en ultra VIP à la finale de Ligue des Champions. Que le stade soit plein ou vide, vous partez à Istanbul le 29 mai prochain pour assister à cet événement. Alors pour gagner votre place pour la finale de Ligue des Champions, rien de plus simple, vous restez à l'écoute d'RMC toute la journée. Dès que vous entendez ceci, facile, vous envoyez foot au 7-32-16. Foot
ça peut tomber à tout moment.
32-16, ça peut tomber dans l'émission, par exemple,
bien
dès
sûr.
Ce soir dans Rotten Regal.
Je pense que quand Jean-Michel va parler.
Restez bien à l'écoute. Tout de suite, allez, on parle du PSG et de la blessure de Kylian Mbappé. On l'a appris aujourd'hui, les Parisiens qui auraient dû écouter un docteur, pas n'importe qui. Docteur Blanc-Bourbis.
Mbappé, pleine profondeur, la frappe derrière, le poteau rentrant. Et bien le voilà, le but de Kylian Mbappé, coach en profondeur. Mbappé qui est resté de longues secondes au sol il y a quelques minutes, qui s'est relevé, zone autour du genou.
Mbappé à 3-0 est toujours là, on assiste à de l'imprudence.
Mbappé a besoin de jouer, Mbappé est bon quand il joue, Mbappé doit enchaîner les matchs et donc le risque de blessure est en gros assumé sur le fait que Mbappé est jamais aussi bon que lorsqu'il enchaîne.
Mbappé il a envie de jouer, mais oui évidemment il a envie de jouer. Mais là aussi, il avait envie de jouer. Il y a 6 minutes de la fin, tu prends un coup.
Et voilà, Kylian Mbappé, victime d'une contracture au mollet droit. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Mauricio Pochettino en conférence de presse.
C'est pas un coup, comme disait Roland déjà.
Oui. Mais il sera absent contre Lens demain. Forcément des doutes sur sa participation mardi prochain contre City. Mbappé qui a joué 87 minutes face à Metz. Il a enchaîné 90 minutes très compliquées, on l'a vu, face à Manchester City. On va d'abord écouter Mauricio Pochettino. C'était en conférence de presse aujourd'hui. Il a tenté de se justifier, le coach parisien.
Aujourd'hui, on a eu une réunion avec le staff médical et le staff de la performance. Kylian est venu et on a parlé de ça. Contre Metz, il ne touchait même pas le sol. Il était très bien physiquement. Le match d'Angers, il ne l'a pas joué. Contre Manchester City, il a reçu un coup en fin de match qui a provoqué un déséquilibre et abouti à ce problème de mollet.
Un problème qui n'est pas grave.
Est-ce que le cas Mbappé a été mal géré par le PSG ? On vous attend au 32-16, bien sûr. Jérôme ?
Non, je vois pas pourquoi on met ça en avant dans tous les cas. Pour moi, le Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, on peut lui reprocher plein de choses sur le match de Manchester City, surtout dans son management pendant le match, comment il s'est adapté à la situation. Mais en aucun cas sur le plan physique des joueurs. Déjà, n'importe quel joueur, quel qu'il soit, il a envie de jouer. Il n'a pas envie de passer son temps à regarder les autres jouer, à être au repos. Quand tu es au repos, c'est vraiment que tu as tiré sur la machine, c'est pas le cas de Kylian. Dire, il était excellent ces derniers temps. Ce match à City, contre City, c'est vrai que il a montré des limites. On a senti tout de suite qu'il n'était pas dans un grand soir sur ses premiers appuis, sur ses premières prises de balles. Beaucoup de déchets, même en première mi-temps quand le PSG a été bien. Est-ce que ça montrait que physiquement il souffrait? Parce que, comme dit Mauricio Pochettino, oui, c'est peut-être la conséquence des coups qu'il a pris, qui a fait que c'est un déséquilibre, comme il a dit, et que le mollet a plus tiré qu'un autre muscle. Ce qui est sûr, c'est que il n'était pas dans un grand soir et qu'on attend mardi soir à City une revanche de sa part. Parce que un joueur d'un tel statut, qui est tellement important pour son équipe, devra être à son meilleur niveau.
Oui, mais on ne sait même pas déjà s'il y sera.
Il y sera. On parle de contracture au mollet. Attention, on ne parle pas de lésion au mollet. Une contracture, c'est le muscle qui se tend. Il n'y a pas de lésion. C'est avant la lésion, la fameuse déchirure. Là, la déchirure au mollet, c'est sûr que je t'aurais dit, c'est mort. Dire au mollet, c'est encore plus compliqué qu'un ischio. Mais de toute façon, en une semaine, l'ischio ou le mollet, s'il y a une déchirure, tu peux pas te remettre. Là, c'est une contracture. Contracture, ça veut dire repos, ça veut dire beaucoup de soins, du drainage. Je pense que dans 2-3 jours, c'est réglé. Et le match de City, c'est dans 5 jours. Donc, il n'y aura pas de problème. Dire le fait qu'il ne joue pas là, si ça avait été la finale de la Ligue des Champions demain, je suis persuadé, ou la demi-finale retour, je suis persuadé qu'il était sur le terrain. Donc, il y a une gêne. Écoute, ils sont.
Tu dis que c'est un peu la faute à pas de chance. Que, par exemple, Mbappé contre Metz.
Tu peux pas anticiper.
Il y a 3-0. Oui. Il aurait peut-être pu sortir un peu avant.
Oui, mais c'est toujours pareil. Moi, j'en ai marre avec cette question. Déjà, je suis pas entraîneur. Donc, c'est pas à moi de me mêler de savoir s'il faut faire souffler un tel et un tel. Personne n'y est. Même ceux qui se prennent pour des docteurs. Et là, j'attaque pas Roland, hein.
C'est le meilleur d'entre nous.
Non, mais personne peut se mettre à la place du joueur et à la place de l'entraîneur et du staff. Dire, il y a une réunion. Il l'a bien dit, Pochettino. Aujourd'hui, les staffs sont tellement élargis que tout est observé. Dès que t'as une petite période de moins bien, ils l'anticipent de toute façon parce qu'ils sentent que là, tu récupères moins bien et là, il faut gérer tel entraînement. Donc, ils sont capables de ça. Aujourd'hui, Mbappé, il s'est blessé, c'est malheureux. Une contracture, c'est pas non plus une fin en soi. Ce que je veux dire, c'est arrivé à beaucoup de gens et à beaucoup de joueurs, surtout, de jouer des matchs où t'as toujours des petits problèmes, surtout en fin de saison comme ça. Même si c'est des gros matchs, il y a toujours quelque chose qui tire. En un moment, il faut passer au-dessus de la douleur. Et donc, ça peut pas être une excuse, en effet, sur sa contre-performance mercredi soir. Et encore une fois, je te répète, tu peux pas anticiper. Si tu gères déjà le match d'avant, et le PSG l'a trop fait. Dire, je vais te prendre l'exemple de Neymar. Neymar, il s'est pas blessé, lui, hein. On est d'accord. Neymar,
un petit peu au coup non, de la contre-City.
Oui, d'accord. Bon, ça, c'est un choc. Ça peut arriver. Il s'est pas blessé. Et contre Metz, vous l'avez vu jouer contre Metz, il a pas fait un mètre. Il a pas fait un mètre. Donc, en fait, Neymar, il s'est géré contre Metz et il a été bon. Physiquement, il a fait un match correct, digne d'une demi-finale de Ligue des Champions. Et ben, moi, je te dis non. Donc, si c'était fait mal le week-end contre Metz, peut-être.
C'est la meilleure paire.
Comment?
Non, c'est la meilleure paire d'attaquants.
Et ben, si c'était fait mal contre Metz, s'il avait pris le match un peu plus au sérieux, en effet, peut-être qu'il aurait été un peu plus en jambes sur le match contre City. Au moins, parce que la première mi-temps, elle est pas médiocre de sa part. Elle est pas mal. On attend mieux, mais elle est pas mal. La deuxième, il se passe plus rien. Et donc, le moteur, il y avait plus d'essence. Et s'il y a plus d'essence, c'est parce que les jours d'avant, t'en as pas fait assez, mon coco. Et là, moi, j'attends Kylian, il est au repos. Et je pense que même pour lui, s'il n'y avait pas eu de pépin, c'est peut-être pas plus mal parce qu'il a beaucoup joué.
Ah non, c'est pas plus mal. Non. Ça, je confirme.
Il a beaucoup joué et tant mieux. Mais Neymar et d'autres, ils ont besoin d'avoir du rythme. Ils ont besoin de se faire mal contre Lens. Déjà parce que le match, il est très important contre Lens pour le Paris Saint-Germain. Parce que s'ils font un mauvais résultat, le titre, il te passe
sous le nez.
Voilà, exactement. Et que à l'arrivée, et à l'arrivée, tu pourras peut-être faire une année blanche. Ça serait terrible pour le Paris Saint-Germain quand même.
Oui, bien sûr, Captain. Bien sûr, tu vas réagir. Juste, moi, je souligne quand même une chose que t'as dit, Jérôme. C'est le joueur qui connaît son corps, qui connaît ses
ressentis. Mais oui, bien sûr.
C'est ce qu'a déjà dit Pochettino en disant,
plus à ce
en quelque sorte, c'est Mbappé qui décide s'il doit jouer ou non et combien de temps il reste sur la pelouse. Et ça, c'est peut-être un peu gênant, Captain. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Ah oui, c'est même très, très gênant. Et donc, puisque tu l'as dit, je ne le répéterai pas. Mais je pense que la blessure de Mbappé s'est réveillée de façon concomitante avec le regard sur le tableau d'affichage et la performance qu'il était en train de nous infliger. C'est-à-dire que je pense que si Mbappé avait été très bon dans ce match et que le Paris Saint-Germain est mené à la 87e minute, Mbappé ne serait jamais sorti. Et je pense que la blessure de Mbappé est équivalente à peu près à celle de De Bruyne, qui a empêché De Bruyne de disputer la finale de la finale, c'était la
finale de Coupe de la Ligue.
Non, il l'a joué.
Mais non, mais je plaisante en disant ça.
Du second degré.
Oui, c'est du second degré. Et évidemment, Mbappé sera apte. Jouera-t-il ? Ça, c'est une autre question. Jouera-t-il contre, je plaisante là aussi, contre City ? C'est une autre question. Mais ça enlève une épine du pied à Pochettino. Parce que dans le match, si demain, dans le match Paris Saint-Germain, Lens, il remet et l'un et l'autre, et qu'il ne tire pas des enseignements sur les performances des joueurs qui ont failli, quel que soit leur statut, qui ont failli contre City, beaucoup en deuxième période, et parfois en première période, parce que j'ai pas écouté l'after hier, mais j'ai bien écouté les commentaires de Jérôme lors du match contre City. Parce qu'en première période, quand tout le monde était euphorique, que le Paris Saint-Germain menait 1-0, ouais, j'ai entendu Jérôme dire, ce sont des, voilà un geste qu'il faut pas faire. Voilà quelque chose qu'il ne faut pas tenter. Pourquoi ils vont tenter le 1 contre 1 alors qu'ils ont un partenaire démarqué, voire deux partenaires démarqués, ouais, et qu'il eût été préférable pour tout, pour l'équipe et pour tout le monde, plutôt que d'aller provoquer l'adversaire, qu'il fasse la passe. Tu l'as dit, Jérôme.
C'est vrai, je te confirme.
Bon, donc bien écouté. J'ai bien écouté, et oui, parce qu'il faut qu'après je débriefe avec toi. Donc, mais quelque part, il aurait fallu qu'il tire les enseignements. Et le fait qu'il soit blessé, je pense que le Paris Saint-Germain a gagné beaucoup de matchs de championnat sans Neymar.
Oui.
Et je pense qu'il peut gagner le match contre Lens demain. Sans Mbappé.
Ouais. Sauf que Mbappé, il les a sauvés contre Saint-Etienne et contre Metz. Heureusement qu'il est là.
Oui,
aussi,
bon, hein. Bah après, il faut peut-être. C'est un groupe, hein, non, mais que d'autres prennent le relais. Hein.
Je précise, oui, sans Mbappé contre Saint-Etienne, il n'y a jamais de victoire du PSG.
Non, c'est pas Icardi qui marque le dernier but.
Oui, c'est Icardi qui marque le dernier but, mais le réveil.
Oui, c'est Icardi qui marque le dernier but. Oui, c'est bon. Oui. Je vais bien. Et Kane aussi a sauvé parfois le Paris Saint-Germain, et Neymar aussi, et Marquinhos également. Donc, je pense que sans Mbappé, ils peuvent jouer, mais en tout état de cause, voilà Pochettino qui nous raconte quand même que c'est le joueur qui décide, qui se connaît. Connais-toi toi-même et qui décide s'il est apte à jouer ou pas à jouer. J'aurais préféré un autre discours.
Oui, donc toi, pour toi, Captain, très clairement, Pochettino.
Mais on repart dans les mêmes
responsables
travers
de ce qui se passe aujourd'hui pour Kylian Mbappé.
Pour Kylian Mbappé, pour le Paris Saint-Germain. De toute façon, c'est Garcia qui est responsable de ce qui se passe à Lyon, c'est Puel qui est responsable, et c'est Pochettino qui est responsable de ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Ouais. On est bien d'accord là-dessus.
Non, mais après, là où je suis un petit peu en désaccord avec toi, Jean-Michel, c'est que bon, on connaît, et tu connais, et tu l'as connu aussi, il y a des joueurs qui sont tellement importants pour une équipe qu'au d'un moment, la relation de confiance, elle existe entre l'entraîneur et le joueur, et que souvent, c'est arrivé que l'entraîneur vienne te voir et te dise, écoute, comment tu te sens, et c'est lui qui décide, et bien sûr,
il vient te poser la question. Mais Jérôme, pour prendre un autre joueur, est-ce que tu penses que dans une demi-finale de Ligue des Champions, avec un match de cette intensité, est-ce que tu penses, puisqu'il y a un staff, on fait des analyses, la VO2 max, ceci, cela, est-ce que tu penses, je ne te parle pas de Mbappé, je ne te parle pas de Neymar, est-ce que tu penses qu'un joueur comme Verratti était apte à jouer une demi-finale de Ligue des Champions contre City
sur 90 minutes, semaine. Certainement pas. Il l'a montré de toute façon.
Et sur 45, c'était pas brillantissime.
Ouais, d'autant il a été meilleur, c'est vrai.
D'autant que, de façon incroyable, indiscutable, tu fais aussi la comparaison avec ce que tu as vu contre le Bayern.
Oui, oui, non, non, mais
forcément.
C'est vrai. Non, mais t'as
forcément.
Raison.
Donc tu te dis, mais arrête, putain, Angel Di Maria, les 45 premières minutes, c'est le meilleur des, 20,
exactement.
Des 22.
Exactement.
Pas du Paris Saint-Germain, c'est le meilleur des 22.
Ouais, ouais.
Et tu te dis, bah tiens, pourquoi ça a bien marché avec Draxler, et à l'aller, et au retour. Et Verratti, c'est du Verratti, mais c'est pas du grand, bon. C'est pas du très grand Verratti. Voilà.
Ouais.
Donc je pense quand même qu'à un moment donné, l'entraîneur doit prendre ses responsabilités.
Et Di Maria, puisque tu en parlais, c'est lui qui est sorti en premier, hein, d'ailleurs, par Pochettino, hein, à 10 minutes de la fin.
Ça,
alors que Mbappé et Neymar vont jusqu'au bout de la rencontre.
Non, et puis il a montré à la fois, en laissant ces joueurs-là sur le terrain, alors que, bon, on sentait que l'investissement, déjà, je pense que ça part d'un investissement, puis après, ça vient sur le physique, qu'ils n'étaient pas à la hauteur, comme l'a dit Jean-Michel. Il y a d'autres joueurs, hein, Verratti aussi en faisait partie sur la deuxième mi-temps. Ça montre quand même un désaveu par rapport à son groupe, quoi. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est
c'est
terrible.
Ça, c'est ça, que quand c'est ça, Jérôme.
Ouais. Non, mais c'est quand t'as Icardi. Non, mais après,
juste ouais. je te coupe 20
un
secondes.
Un peu trop, là, aujourd'hui.
Et dans la même semaine, 48 heures auparavant, et l'autre qui raconte, on est la meilleure paire du monde. Coucou, fais ce que tu dis.
Mais souvent, tu le sais, Jean-Michel, quand tu annonces des choses comme ça, t'as beau être les meilleurs joueurs du monde.
Ouais.
Eh ben non, mais tu le prends dans la tête.
Ah, évidemment.
Tu sais que quand tu annonces un truc. Moi, il y a des entraîneurs, souvent, ils me disaient les articles, là, le jour du match, arrêtez. Le jour du match ou veille de match, arrêtez. Ne parlez pas en vous mettant en avant comme ça.
Coach Veil,
parce que
ça.
De toute façon, ouais, il en faisait partie aussi, c'est vrai. Mais ça vous met une pression supplémentaire. C'est vrai que vous n'avez pas besoin.
Et
quand tu annonces des choses, et ben souvent, c'est l'effet inverse.
Il y en a un pour qui ça a marché, c'est Payet. On en parlera d'ailleurs dans Rotten Regal. Tu te souviens, contre l'Olympique Lyonnais.
Il me semble que sur les matchs de Ligue des Champions, il a beaucoup parlé.
Ah, peut-être
la veille des matchs.
Bon, on va revenir bien sûr sur notre débat sur le Paris Saint-Germain et sur Kylian Mbappé avec vous au 32-16 dans un instant. Jérôme, si je te dis Monaco est finale de Coupe d'Europe, tu penses à quoi?
Porto.
Ben non, c'est du basket.
L'Eurocoupe.
Il est con,
ce mec.
La finale de l'Eurocoupe, deuxième manche.
Allumé.
Kazan-Monaco.
Ben oui,
évidemment. Arnaud Valadon, suis ça pour nous. Salut Arnaud.
Salut messieurs. Salut, oui, l'Eurocoupe, c'est l'équivalent de l'Europa League. Donc voilà, la deuxième compétition européenne.
Mais ça n'intéresse pas, ça, Jérôme. Lui, c'est que la Ligue des Champions.
Ils ont gagné le premier match, effectivement. Mardi 88-87. S'ils gagnent ce soir, eh bien, ils seront vainqueurs de l'Eurocoupe. Sinon, il y aura une belle dimanche. Et pour l'instant, c'est très serré dans le premier carton à Kazan en Russie. 28 pour Monaco et il y a quand même 5000 personnes, ça change de l'ambiance du huis clos de la salle Gaston Médecin qui se situe, tu le sais Jérôme, sous le stade Louis II.
Exactement.
La salle de basket. Et là,
et la belle, elle est où éventuelle?
Elle sera en Russie.
Bon, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, Monaco domine, donc.
Quelques petits points.
Ouais. On suit ça avec toi, bien sûr, Arnaud. Oui, domine, c'est vrai que c'est un grand mot. Allez, on revient tout de suite dans Rotten Regal. On continue de parler de Kylian Mbappé et du Paris Saint-Germain avant d'affronter Lens. À tout de suite.
RMC
18h-20h
Rotten Regal François Pinet,
Jérôme Rotten.
18h18, toujours dans Rotten Régal sur RMC avec François Pinet, Jean-Michel Larquet, bien sûr, toujours avec moi.
Oui.
On continue le débat sur savoir le cas Mbappé, si ça a été bien géré, si le coaching de Pochettino, on va élargir un petit peu avec les auditeurs.
Exactement, dans 15 minutes aussi, n'oubliez pas l'élève contre le maître, un must dans Rotten Régal. Et là, on va parler de l'OM qui joue ce soir contre Strasbourg. Est-ce que la reconstruction de Marseille passe forcément par Dimitri Payet, qui est plutôt bon en ce moment?
Oui.
On entendra d'ailleurs Sampaoli.
Comme souvent.
Et on retrouvera Flo Germain dans un instant. Alors, on revient sur notre débat PSG. On vous demandait si le cas Mbappé avait été mal géré par Pochettino. On rappelle que Mbappé s'est blessé, contracture à un mollet, qui ne sera pas là contre Lens. Mais a priori, d'après Dr Rotten, il pourrait être là contre Manchester City mardi.
Là, je peux te le signer
tout de suite. Il n'a aucun doute là-dessus.
Comme j'avais signé sur Kevin De Bruyne quand tout le monde nous annonçait qu'il était forfait. Voilà, et encore celle de Kevin De Bruyne, elle était un peu plus risquée parce que sa blessure, c'est pas n'importe quoi.
Il était sorti du terrain immédiatement.
Ouais. Alors que là, une contracture, écoute,
okay, non,
Michel,
mais
le matin, il se lève, il a des contractures. Hein.
Oui, mais il n'y a pas
de avoir des contractures, c'est bon signe, c'est que tu as encore des muscles.
Exactement.
C'est quand tu as plus mal que c'est grave.
Oui, c'est vrai.
Ça m'inquiète, mais je crois que tu n'as plus beaucoup de muscles parce que le défi qu'on s'était mis en place d'essayer de toucher la barre, là,
c'est vrai, 18 mètres, c'est vrai ça.
Ouais,
mercredi après-midi, je me suis entraîné pied droit, pied gauche et j'ai fait un malheur.
Mais par contre, c'est vrai, les gens m'ont dit que tu frappais maintenant des 5,50 pour toucher la barre.
Non, je t'ai dit toi des 18 et moi du point de pénalty.
Bon, ça va.
Bon, j'espère que t'as encore des douleurs du coup, Captain. Olivier a fait le 32-16. Salut Olivier.
Salut Olivier. Comment ça va?
Ça va,
et toi?
Bah écoute, un peu déçu du match, hein, évidemment.
Ouais.
Mais je pense comme beaucoup de supporters parisiens. Hein.
T'y crois
Ah oui, bah sans aucun doute, sinon faut pas jouer cette compétition. Et puis de toute façon, je pense que le niveau du Paris Saint-Germain, on sait qu'ils en sont capables. Et à l'extérieur, on est meilleur qu'à domicile, donc de toute façon...
C'est quoi toi les motifs d'espoir que t'as quand tu vois le match aller?
Bah les motifs d'espoir, c'est que de toute façon, tous les Parisiens, ils pouvaient pas être plus mauvais. On aurait même pu en prendre un peu plus, donc bon, après avoir pris deux buts de gag un peu... Et voilà, on ne peut pas faire pire. Et je pense qu'ils étaient surtout très cramés. Je pense qu'ils ont laissé beaucoup de plumes contre le Bayern. Mbappé a joué avec cette gêne à la cuisse. Donc, bah, automatiquement, quand lui n'est pas au niveau, Neymar n'est pas au niveau. Donc ça, c'est problématique
aussi.
Et tu
penses que ce cas-là a été bien géré ou mal géré? C'est quoi ton avis là-dessus?
Bah, comme ce qui a été dit avant par Captain Larquet, c'est... Ce qui est compliqué, c'est que Mbappé, c'est un peu lui qui dit oui, je peux le faire, non, je peux pas le faire, ou je peux jouer, je peux pas jouer. Donc, s'il a dit à Pochettino qu'il pouvait jouer, c'est sûr que voilà, lui, il veut jouer tous les matchs. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, oui, de toute façon, on peut pas se passer d'un Mbappé. En demi-finale de Ligue des Champions.
Ouais, même si peut-être que c'est à cause de ce coup-là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais que Mbappé n'a pas été bon. Toi, ce n'est pas ta théorie. Tu penses que s'il n'a pas été bon contre Manchester City, ça n'a rien à voir avec le physique.
Moi, je pense que déjà, ils l'ont très bien pris. Jean-Michel a raison. Déjà, le coup, il l'a pris, je pense, en deuxième mi-temps.
Non, mais il avait pris un coup contre Metz.
Mais bon, le coup de contre Metz, c'est les gars. Et ce que je veux dire, c'est que.
Il avait pris un coup contre Metz, mais il volait contre Metz.
Voilà. Bah,
c'est ce qu'a dit Pochettino. Il avait pris un coup contre Metz. Il en a repris un contre City.
En fait, à la fois, et c'est vrai qu'on a toujours mis ça en avant, et je te le répète, et Jean-Michel va pas me dire le contraire, quand tu joues des matchs, surtout en fin de saison comme ça, des gros matchs, tu sais que dans la préparation, de toute façon, ton organisme, il souffre. Jamais c'est arrivé à cette période-là, ou très rarement, que tu n'as aucune douleur quand tu t'entraînes la veille du match, le jour du match, sur l'échauffement et tout. T'as des muscles qui tirent, parce que c'est normal, parce qu'il y a l'accumulation de la fatigue avec la saison, encore plus maintenant avec le contexte qui est quand même particulier, entre ce Covid, ceux qui l'ont attrapé, comment ils se remettent et tout ça. Donc il y a ça à prendre en compte. Mais n'empêche que quand t'es sur le terrain, c'est que tu fais confiance, ton entraîneur te fait confiance, c'est que t'es à 100%. J'imagine même pas une seule seconde Mbappé dire à Pochettino sur ce match-là, je ressens une douleur, je suis à 80%. Et s'il l'a fait jouer, s'il a dit ça, c'est une énorme connerie, en fait.
Non, mais tu peux imaginer que Mbappé, il a des douleurs et il sent pas à 100%.
C'est le cas,
et il joue quand même.
C'est le cas de tout le monde.
Oui, mais il joue quand même. Il ne le dit pas.
Et alors, pour aller plus loin dans ta réflexion sur le fait 100%, 80%, on joue à des détails. Pour moi, il y a un investissement. Et c'est là que je veux poser la question à Olivier aussi. Est-ce qu'il a ressenti, comme moi j'ai ressenti, et j'étais bien placé, hein, tu vois les efforts, le manque d'investissement de la part de tes deux stars, surtout la deuxième mi-temps.
Oui, complètement. J'ai l'impression de voir un Neymar de finale de Ligue des Champions de l'année dernière, en fait. C'est, alors que pourtant, sur les dernières prestas, il nous a montré quand même quelque chose de Neymar, en fait.
Hein.
Et effectivement, mais je pense que c'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe, même au milieu de terrain. Pour moi, Verratti n'avait pas sa place en demi-finale sur ce match aller-là, parce que je pense qu'il était en manque aussi de...
Non, mais physiquement, on est d'accord. Olivier, on est d'accord sur le physique de Verratti. Jean-Michel en a parlé, il a raison. Il n'était pas apte à faire 90 minutes. Mais n'empêche que Verratti, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais Verratti s'est accroché. Verratti, il a couru. Verratti, et peut-être il a couru dans le vide, mais Verratti, il est à pas loin de 12 km sur l'ensemble du match. Donc je peux te dire que 12 km sur l'ensemble du match, il faut les faire quand même.
En fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on attend le carton rouge de Gueye pour commencer à faire des changements et à sortir Di Maria, qui lui a fait pour moi le seul Parisien qui a fait un bon match, quoi.
Ouais.
Moi, j'ai été très étonné par certaines analyses sur la deuxième période, mais comment expliquer que cet effondrement physique entre la 45e et la 46e minute. Comme si, entre la 45e minute où tu rentres au vestiaire et la 46e minute, tu sors des vestiaires pour reprendre ta seconde période, tu as fait, je sais pas quoi, un test de Cooper ou que sais-je.
Ouais.
Tu t'es reposé. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait une insuffisance physique, mais je pense que le discours, ou peut-être les petits échanges entre les joueurs à la mi-temps, en se disant « on est bien, les gars ».
Eh oui, exact. L'autosatisfaction.
On a la main sur eux. on a marqué un but. Ils n'ont pas été dangereux une seule fois. S'il y a eu le tir de Foden en première période.
Ouais.
Mais en dehors de ça, ils n'ont pas d'occasion. On continue. On va se la jouer tranquille. Prenons pas de risques. Et puis à la sortie, quand tu prends pas de risques, quand tu veux la jouer tranquille, quand tu penses que tu es plus malin que l'adversaire, quand tu penses que tu es plus fort que l'adversaire, il t'arrive ce qui t'est arrivé dès la 46e minute. Mais qu'on me dise pas qu'entre la 45e et la 46e, il y a eu un problème
physique.
C'est
des conneries, c'est gros comme une maison.
Bon.
Ça.
Merci beaucoup. Merci Olivier. Tu reviens quand tu veux, bien sûr, dans Rotten
sur
RMC. Jusqu'au match.
À bientôt.
Évidemment, n'oubliez pas aussi.
À mardi soir.
On vous offre vos places pour la finale de Ligue des Champions. Ça peut tomber à tout moment. On va aller au basket. Kazan Monaco, Arnaud Valadon.
Je pense que c'est dur.
Où on en est?
Non, c'est toujours aussi serré. 26-24 pour Kazan et on vient de démarrer le deuxième quart-temps depuis 50 secondes. Monaco qui mène 1-0 dans cette série. Et s'il y a victoire ce soir, il y aura titre dans la deuxième compétition européenne, l'Eurocup.
Non, tu vas pas encore parler d'une finale de Coupe d'Europe, Jérôme, avec Monaco.
S'ils sont champions d'Europe, c'est peut-être un signe pour l'équipe de foot qui peut être championne de France.
On en reparlera d'ailleurs à 19h. Restez bien avec nous. Merci beaucoup Arnaud. Rotten Régal qui revient avec le duel évidemment entre Captain et Jérôme autour de Dimitri Payet et de l'Olympique de Marseille. On vous attend. À tout de suite.
RMC.
Rotten Régal. François Pinet,
Jérôme Rotten.
18h29, allez, toujours dans Rotten Régal, bien sûr, on continue nos débats. Oui. Maintenant, François, avec François Pinet, bien sûr, Jean-Michel Larquet. On va parler de l'Olympique de Marseille, se poser la question sur Dimitri Payet, le futur. On dit tellement de bonnes choses.
Le futur de l'OM, peut-être.
Du côté de Marseille.
Bah,
on va s'attaquer un petit peu.
On entendra Sampaoli dans un instant.
Mais avant ça, il y a un petit malin qui veut faire vivre les gens. Adrien Hugo.
Bonjour, bonjour Adrien.
Salut.
Adrien.
Salut.
18h45.
Il y a du lourd dans celui-là.
Oui, mais c'est une semaine Ligue des Champions,
c'est sûr. Il doit y avoir du Eric Dimeco, non?
Il y a du Jérôme Rotten qui s'est transformé en professeur d'anatomie en direct sur RMC Sport. Et puis, c'est assez rare, je dois dire, mais Capitaine Larquet pris par la patrouille du journal moyen, Capitaine. Une histoire de sirène.
C'est régulier, quand même.
C'est de plus en plus régulier, c'est comme ça.
Adrien qui a fêté quand même son millième.
Oui, c'était le millième aujourd'hui dans le journal moyen.
Bon anniversaire.
Millième journal moyen du Super Moscato.
Ouais. Bon anniversaire.
J'ai bien aimé les analyses de Moscat. Une analyse sur une passe splash, l'olive, une splash, est passé. J'ai rien compris.
Est-ce que tu sais qu'on est un millième journal moyen de Rotten Régal?
Non.
Pardon.
Je n'ai pas compté.
Fais calcul, ça fait deux ans.
Je vais compter.
Vas-y. Rendez-vous dans 15 minutes avec le nom.
Et compte.
Prochaine.
Il faut autant de temps pour compter.
Mais oui, parce que.
Ça a été bon, quoi. Parce que...
Allez.
Deux, alors.
À tout à l'heure, Adrien. 18h45, évidemment, le journal moyen. Tout de suite, Jérôme Rotten, Jean-Michel Larquet, c'est le moment de l'affrontement.
RMC. Pour tuer l'ennui ou par nécessité, plus de 500 000 retraités ont repris une activité.
Jean-Michel Larquet.
Tout à fait.
Mais parfois, c'est tout simplement pour leur grand talent. Que les entreprises recrutent des retraités.
C'est pas possible. Ou quoi?
Le maître contre l'aise.
C'est vrai que tu le dis plus trop, tout à fait. C'est fou ça, ça t'allait bien ça. Tout à fait.
Si.
Oui.
Ce soir donc, Marseille-Strasbourg, 21h. On va accueillir Flo Germain, tiens, qui va commenter la rencontre ce soir pour RMC. Salut Flo.
Salut les gars. Salut.
La question qu'on voulait se poser ce soir, est-ce que la reconstruction de l'OM passe par Dimitri Payet? Payet qui est en grande forme en ce moment. Donc avant de te laisser la parole, Captain, parce que tu voulais réagir, Flo, dis-nous si l'OM et Sampaoli comptent toujours autant sur le meneur de jeu pour la suite.
Oui, alors il faisait partie malgré tout des nombreux joueurs qui étaient sujets à des évaluations, hein, parce que le terme a été employé plusieurs fois par Rodri Sampaoli, et il n'y avait pas de statut. Sampaoli est arrivé avec une connaissance assez précise des joueurs, mais il voulait voir ce que ça donnait avec sa prise de fonction. Il est plutôt satisfait de Payet parce que depuis que Sampaoli est là, il tourne plutôt bien. C'est pas lui qui a imposé drastiquement un régime à Dimitri Payet, soit dit en passant, parce que Villas-Boas avait déjà fait une partie du sale boulot en lui mettant la pression début janvier, en lui disant que il fallait qu'il fasse un effort, sinon il ne serait plus titularisé. Donc il s'est malgré tout aminci au fil des semaines pour retrouver un niveau qui est vraiment qui commence à devenir très intéressant. On l'a vu notamment avec le doublé à Reims et la passe décisive. Mais écoutez, Sampaoli, il confirme aimer le style Payet, mais il n'est pas naïf sur son irrégularité chronique au fil de sa carrière.
Payet est revenu en forme, en tout cas de plus en plus, sur le plan mental surtout. Il crée des situations proches du but adverse et il nous aide beaucoup avec ses passes décisives, ses buts. Et je crois qu'il a compris ce que l'on souhaite basiquement dans ce système de jeu. Après, évidemment, il faut que ses progrès perdurent dans le temps. J'ai confiance en ses capacités, mais il faut que cette irrégularité qui a beaucoup marqué sa carrière ne se reproduise plus. Vous savez, chez les footballeurs aujourd'hui, ils ont parfois des difficultés à profiter à 100% de leur activité. Il faut donc leur donner des outils pour que la concentration sur un métier aussi beau que le football soit au-dessus de toute autre tentation.
Voilà, j'ai beaucoup aimé ce final parce que c'est très clair, ça veut dire ce que ça veut dire, que le foot, que le jeu, que son métier soit au-dessus de toute autre tentation. Pablo Longoria, cette semaine en conférence de presse, a aussi dit qu'il voulait faire un mix de jeunes joueurs prometteurs et de cadres capables de montrer l'exemple. Bah, ce sera justement le défi de Payet, savoir s'il est capable de franchir un palier avec Sampaoli pour devenir un leader irréprochable.
Flo, tu restes évidemment avec nous, capitaine. Du coup, sur l'Olympique de Marseille, sur Payet, est-ce que l'OM a intérêt à s'appuyer sur Payet pour les saisons à venir ?
Il y a d'abord une obligation, c'est que le contrat de Payet est tel qu'il ne trouvera nulle part ailleurs ce qu'il a à l'OM et qu'il n'aura jamais, enfin à moins d'un miracle, qu'il n'aura jamais d'offre qui pourrait lui éventuellement l'inciter à partir. Donc l'OM est bien obligé de compter sur Payet pour les saisons à venir où il sera en tout cas dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. C'est bien 2024 la fin de
son... Affirmatif.
La 2024. Fin de son contrat. Donc, par obligation, Payet sera dans l'effectif. Par contre, qu'il soit un leader et qu'il soit un cadre, je pense que là, l'erreur est fatale. Parce que tu as bien aimé la fin du discours, Flo, en disant que le football devait être au-dessus de toute autre préoccupation. Mais j'ai bien aimé, c'est-à-dire que Sampaoli, visiblement, n'a pas regardé que les derniers matchs de l'Olympique de Marseille, ni ce qu'avait fait Payet à l'Olympique de Marseille. Il a regardé toute la carrière de Payet.
Exactement. C'est pas possible. Exactement.
Voilà, parce que...
Il arrive en connaissance de cause, qu'il a étudié, il sait qu'il a affaire à un joueur qui est capable de faire des demi-saisons.
Des demi-saisons.
Et encore des quarts de saison.
T'es généreux, mais que ce soit à Nantes, que ce soit à Lille, que ce soit à Saint-Etienne, ou que ce soit à Marseille, c'est un gros trimestre. Voilà, allez, je vais... Un gros trimestre pour les performances d'un Payet qui sont à son niveau le reste du temps, ou c'est moyen, ou il est blessé. Donc, effectivement, tu ne peux pas t'appuyer sur un joueur qui te fait, allez, même soyons généreux par les temps qui courent, qui te fait une demi-saison. C'est pas possible. Donc, par obligation, Payet sera dans l'effectif de l'Olympique de Marseille pour les deux saisons à venir, ou les trois saisons à venir, mais certainement pas comme un cadre ou comme un leader, ou alors il va se dévoiler tard, rien ne l'empêche de se dévoiler comme un leader et comme un cadre. Rien ne l'empêche de faire deux ou trois saisons complètes. Mais pour l'instant, si on s'appuie sur ce que l'on a vu, c'est une petite demi-saison, toute petite demi-saison, et certainement pas un leader ou un cadre.
Jérôme.
Écoute, on peut pas aller contre l'envie des dirigeants, dans tous les cas, et de l'entraîneur. Dire aujourd'hui, Flo nous le disait, il y a un contrat qui court, qui est important, même Jean-Michel le disait, donc rien qu'avec ça, ils sont bloqués. Mais moi, si je veux aller plus loin, si je parle de renouveau, de reconstruction, et c'est vrai que l'image que donne Sampaoli avec Longoria aujourd'hui, c'est un discours qui est rafraîchissant. Alors, c'est pas exceptionnel comme discours. Il y a beaucoup de clubs qui pensent comme ça, beaucoup d'entraîneurs et de présidents qui pensent comme ça. Ils en parlent pas forcément ouvertement. Mais c'est vrai que leur réflexion, elle est souvent là. Avoir des joueurs d'expérience et pour encadrer les pépites, comme a dit Longoria, ça me paraît assez logique. logique quand tu vois les moyens de l'OM aujourd'hui. Le seul problème, c'est que ces joueurs d'expérience, qui sait ? Quel est l'investissement de ces joueurs-là ? Qu'est-ce qu'ils vont apporter aux plus jeunes ? Et moi, le bémol que je mets sur Dimitri Payet, c'est pas ses qualités de joueur, parce que quand il est affûté, comme il l'est actuellement, malheureusement, ça arrive pas très souvent, bien sûr qu'il est capable, parce qu'il a une qualité de passe, il a une vision qui est bien au-dessus de la moyenne. C'est un joueur qui est capable d'élever son niveau contre des grandes équipes, on l'a déjà vu, d'être décisif, pas de souci. Le problème, c'est son manque de professionnalisme qui a souvent été mis en avant dans tous les clubs où il est passé, et encore plus cette année qui était très importante pour l'OM. T'imagines la trahison qu'il a pu mettre à Villas-Boas, qu'il l'a toujours défendu, qu'il adulait même Villas-Boas. Il est arrivé avec 7 kilos de trop, il a duré. Et en plus, ils nous ont masqué ça. Mais non, il n'est pas en surpoids, c'est vous qui abusez, il est au même poids que l'année dernière. Mais ils se sont foutus de nous. Et à l'arrivée, il s'est foutu de ses coéquipiers. Je ne parle même pas du public et des supporters et de ses dirigeants, ceux qu'il paye très cher. Mais il s'est foutu de la gueule de tout le monde. Et que rien que pour ça, comment tu veux que ce joueur-là encadre des jeunes ? T'imagines le regard juste, moi je pense à l'année prochaine. Nouvelle saison, en espérant qu'il y ait un stade Vélodrome plein, comme dans tous les autres stades. Donc ça redonne de la magie à l'Olympique de Marseille, de l'énergie aux joueurs. T'as une nouvelle équipe, il y a des nouveaux joueurs qui vont arriver. Alors il n'y en aura peut-être pas 50 vu les moyens, mais il y en aura quand même, il faut renouveler. Et ils l'ont dit, ils cherchent les petites pépites, les petits jeunes, pas chers, ceci, cela. Le réseau de Longoria, peut-être ça va arriver. Mais le regard de ceux qui sont déjà là, par rapport à Dimitri Payet. Vous croyez vraiment que les mecs le regardent comme le statut de leader, de joueur exemplaire ? Mais non, ils se foutent de sa tronche. Parce que là, quand je te parle de tirer dans le même sens, ce n'est pas possible. C'est le mal est trop profond à Marseille. Et il est trop profond avec Payet, mais il est aussi trop profond avec Flo Tova, que j'adore, Flo. Mais aujourd'hui, ces joueurs-là, ils sont arrivés à un stade où tu ne peux plus encadrer des jeunes. Ils n'ont plus l'aura pour le faire. C'est tout, c'est aussi simple.
Et le risque aussi, Jérôme, c'est par rapport aux supporters et à la pression qu'on peut connaître ici à Marseille. J'ai le sentiment que plus rien ne lui sera pardonné.
Mais oui,
c'est-à-dire
mais
que
c'est
s'il y a un enchaînement de quelques rencontres où ça va pas, s'il y a une attitude qui pour le coup devient suspecte ou quoi que ce soit, les supporters, tu l'as décrit, Jérôme, ont beaucoup encaissé, beaucoup avalé de couleuvres avec Payet. Et ça pèsera sur l'ambiance.
Mais ça arrivera forcément, Flo. Ça a toujours été ça, c'est le reflet de sa carrière. Je veux dire, à 34, 35 ans, c'est pas maintenant qu'il va changer.
Ouais, ce que je vous propose, c'est justement de donner la parole aux supporters dans Rotten Régal. Et Romain est avec nous, supporter de Marseille, pour parler justement de Dimitri Payet.
Salut Romain.
Salut Romain.
Bonsoir tout le monde.
Salut Romain.
Salut Romain.
Alors, qu'est-ce que tu pensais de ce que vient de dire justement Flo, en disant les supporters, ils vont pas lui pardonner à Dimitri Payet.
Alors déjà, en étant supporter marseillais, ça fait longtemps qu'on va plus au stade. Aujourd'hui, on regarde les matchs malheureusement à la télé. Je pense que c'est pas une histoire de pardonner ou pas pardonner. Déjà, on a l'envie de retourner au stade, c'est ce qui nous manque le plus. Donc après, les joueurs, on les supportera quand même. Moi, je vous trouve juste, objectivement, je vous trouve très dur, que ce soit Jean-Michel ou Jérôme.
Ouais.
Je vous trouve dur avec Dimitri dans le sens où, en fait, on sait tous les déboires qu'il a fait, on sait très bien qu'il s'est montré sur les réseaux. Je pense que ça a été la plus grosse erreur d'avoir branché, d'avoir fait tout ça. Aujourd'hui, le mec, il reste dans son coin, il perd du poids. On n'en parle pas forcément, il revient. Alors, moi, je ne suis pas le supporter Fana qui va vous dire l'OM, machin et tout. Il y a pas de... Moi, je suis objectif. Il fait 2-3 matchs assez bons. On attend de lui qu'il aille vers l'avant, qu'il marque des buts, qu'il fasse des passes des. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est un nouvel OM, un nouvel entraîneur. Franchement, je trouve ça assez cool dans le système de jeu qu'il est en train de mettre Sampaoli dans tout ça. Aujourd'hui, on parle de cadre. On sait très bien les moyens financiers de l'OM l'an prochain. On sait très bien la place de Mandanda aujourd'hui. C'est très bien la place de Flo Tovin. Alors, vous parlez de Flo Tovin. Je pense que dans ses dernières déclarations, il a quand même dit qu'il commençait encore à retrouver un peu de l'amour pour le jeu marseillais, pour Sampaoli, qu'il aimait rester dans ce système. Voilà. Est-ce qu'après...
Mais Romain, sans être... Je veux pas te traiter de naïf du tout, mais aujourd'hui, si Flo Tovin reste à Marseille, c'est qu'il a rien d'autre. C'est qu'il a pas une bonne proposition à l'étranger. Parce qu'il y a quelques mois, il a bien refusé une prolongation de contrat à Marseille.
Bien sûr. Non, mais je comprends très bien. Mais tout à l'heure, Jean-Michel, il disait d'entrée, il a bien résumé le truc. En fait, c'est même pas est-ce que Dimitri a envie d'être le cadre, c'est-à-dire qu'il va rester dans cette équipe marseillaise.
Ouais.
C'est sûr et certain, puisqu'il trouvera plus un autre club avec les avantages qu'il a.
C'est sûr.
Clair et net. Après, est-ce que d'un cadre, on attend forcément qu'il soit là derrière les jeunes qui... Je pense qu'un mec comme ça, avec l'expérience qu'il a, ce soit ben, un peu en équipe de France, on ne va pas se mentir quand même. Il n'y a pas que du mauvais chez Dimitri Payet.
Ah non, non, mais c'est clair. Non, mais t'as raison. Non,
est-ce
mais...
qu'à un moment donné, il y a des petits jeunes qui vont pouvoir, alors je ne vais pas dire s'identifier, mais tu sais, pouvoir à un moment donné se rapprocher d'un mec comme ça. Je ne sais pas si Steve...
S'il est exemplaire.
Ouais, c'est ça.
Le problème, c'est que sa carrière, elle ne parle, ouais. parle pas pour lui. Et encore plus, je ne vais même pas remonter à quelques années. Il y a juste à regarder cette saison. Dire, quand on me dit... Mais même Flo Thauvin, c'est pareil. Ouais, l'entraîneur, c'est rafraîchissant. Mais souvenez-vous du discours qu'ils avaient sur Villas-Boas.
Oui, c'est vrai.
Ils étaient tous liés.
Oui, c'est vrai.
Et ça n'a pas empêché d'être catastrophique et même de lâcher l'entraîneur. Et aujourd'hui, Sampaoli, c'est magnifique, c'est tout beau, tout nouveau. Mais oui, on verra
dans quelques mois. Merci beaucoup, Romain. Merci d'être passé sur
RMC. À bientôt. Salut, Romain.
Tu reviens quand tu veux dans Rotten Régal. Le temps, le score entre Kazan et Monaco, Arnaud Valadon, c'est l'Eurocoupe, la finale.
Je pense qu'on est devant.
Fois, c'est très serré. Oui, ils sont devant. Ouais. 41 à 39. Mais voilà, c'est un coup Kazan devant, un coup Monaco devant. Il reste 3 minutes avant la mi-temps.
On va la soulever ce soir.
C'est l'effet Jérôme Rotten, bien sûr. On reste, vous restez avec nous dans Rotten Régal, puisque tout de suite, c'est journal moyen avec du Jérôme Rotten dedans et avec du Capitaine Larqué.
Ouais, c'est important.
Ça vaut le coup quand même, à tout de suite.
RMC
Rotten Régal. François Pinet,
Jérôme
Rotten. 18h47, toujours dans Rotten Régal avec François Pinet, avec Jean-Michel Larquet. Ouais. François, on arrive à la fin de la première heure. Qui dit la fin de la première heure, c'est le journal moyen.
Mais, oui.
Mais avant, on va présenter.
Oui, on va
c'est
dire
quoi,
ce qui va se passer à 19h. Bah, tu le sais par cœur. Maintenant, c'est un must de la radio française, le multiplex de Rotten Régal. T'as vu le petit sourire
Oui, j'ai un petit sourire parce que j'ai inventé ce truc-là.
T'as tout inventé.
J'ai voulu le mettre en place. Jean-Louis Tour, qui est à ta place d'habitude, n'y croyait pas.
Ah oui, ça m'étonne pas de lui.
Et maintenant, il est excité.
Donc le multiplex, on ira à Lille, bien sûr, à Monaco, à Lyon, pour la course au titre et au podium concernant les Lyonnais. Et on prendra des nouvelles de Bruno Genesio au Stade Rennais, où tout va bien.
Ça, c'est pas une idée de Jérôme.
En fait, j'avais pas trop l'idée. Pour tout cacher, je voulais pas trop qu'on parle de Han, parce qu'ils aiment bien qu'on en parle pas.
Voilà. Mais là, on va en parler.
Ils sont dans l'anonymat. Donc là, ils sont dans l'anonymat. Donc c'est bien. Ils ont éclaté Dijon. Donc on va en parler.
Mais d'abord, le journal moyen, évidemment, Adrien Aiguin.
À la une du journal moyen de la semaine dans Rotten Régal sur RMC. Jérôme Rotten en mode premium, normal Ligue des Champions. Oui. Jérôme médecin sur RMC Sport. Ouais. Capitaine Larqué rejoint la famille du journal moyen régulièrement. Bravo capitaine.
Ouais, là, c'est toutes les semaines.
Et puis, alors lui c'est toutes les semaines, c'est Lionel Charbonnier. Il fait
souvent
son retour.
Oh pourtant, il n'y avait pas la Coupe de France.
Qui dit Ligue des Champions dit after pour
Lionel. C'est vrai, oui, mais lui.
Et puis aussi le week-end de la Ligue 1. Enfin, il est un peu partout. Vous écoutez RMC, il est 18h, passé de 49 minutes.
En direct de la rédaction d'RMC Sport,
c'est le journal moyen de Rotten Régal,
Adrien Aiguin.
On débute avec l'After qui fêtait ses 15 ans. Joyeux anniversaire, l'After. Le week-end dernier, After présenté par Nicolas Jamin, grand moment, 22h01, c'est la prise d'antenne. Le début de l'After, Nicolas Jamin. Fred Piquion n'est pas loin, il est à côté en studio, il va faire l'After. Un très très grand Fred Piquion.
Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, l'After est là comme tous les soirs jusqu'à minuit. L'After, la seule émission en direct 7 jours sur 7. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast en plein footing.
Peut-être. Bonjour à toi, le post-cateur.
Magnifique.
Le fils. Rendez-vous, rendez-vous lundi dans le Super Moscato Show avec Adrien.
Et bien voilà, nous sommes dans le journal moyen. Bon, oui, merci.
Bravo, alors, Fred.
Bravo, franchement, Fred. C'est magique. Post-cateur, version plus courte, c'est la première.
Bonjour à toi qui nous écoute en podcast en plein footing. Peut-être.
Bonjour à toi, le post-cateur.
Magnifique. Le fils. Rendez-vous, rendez-vous lundi. Il y croit tellement en plus.
Il est bien.
C'est la maladie du Moscato. Moscato
il progresse.
Il n'arrive pas à dire podcast.
Je pense qu'il peut finir dans le Moscato, Fred Pinkham.
Oui, mais il est venu une fois, c'était sympa. Une belle rencontre. J'ai écouté Rotten Régal cette semaine. Il se passe des choses dans Rotten Régal. Vendredi dernier, capitaine Larqué. C'est parfait, comme d'habitude. Jean-Michel Larqué
nous
parle de son show dans le Moscato Show. On appelle ça un Moscar. Vous savez, c'est une expression un peu mélangée. Ça se joue à rien du tout, monsieur Larqué.
J'ai pas réussi à me rattraper.
On écoute.
Et Dieu sait si du côté de Sochaux et de la famille Peugeot, qui était carré dans tout, qui était carré, ils ont quand même cédé au sifflement des sirènes. Voilà.
Ah, mais merde! Merde, je savais quand j'ai dit simplement. J'ai dit, je suis mal embarqué.
Effectivement, ouais, quand on réécoute, ouais. En réécoutant la chute, on sait que Jean-Michel, il sait qu'il va prendre le mur. Il le sait, mais il y va.
Ils ont quand même cédé au sifflement des sirènes. Voilà.
Après, une sirène, ça peut siffler.
Bah oui, pourquoi pas.
C'est vrai qu'on a l'impression qu'il veut appuyer sur le frein.
Des champs,
il appuie sur le frein, mais la deux chevaux, elle ne veut pas freiner.
J'ai pas réussi à me rattraper. Ouais.
Allez, après l'instant.
Parti dans le salto,
personne t'a aidé.
Après l'instant, capitaine Marqué, je déclenche un instant Rotten. 1-0 Rotten en mode Ligue des Champions donc cette semaine, RMC Sport 1, PSG Manchester City, parfait pendant le match, nickel Jérôme, et même après le match dans Champions Zone, tu es tellement en confiance que tu décides de te transformer en une sorte de Dr House des consultants foot. Oui, Dr House Jérôme Rotten, cours d'anatomie, Jérôme nous parle de gay, ah c'est Dr House, Dr... Rothaus avec la canne et tout. Jérôme nous parle de Gay, de son carton rouge anatomie en direct.
Mais Gay, c'est vraiment parce qu'il a du brouillard devant les yeux. Et pourtant, il a deux poumons. On le compare par moment à N'Golo Kanté à juste titre.
Oui, Gay a deux poumons, donc comme Kanté, comme François Pinet, comme Jean-Michel Larquet.
On est quand même rassuré.
Comme Jérôme Montaigne.
Voilà. Non, François, t'as pas deux poumons. Vu comment tu fumes, il n'y en a plus qu'un.
J'ai arrêté de fumer depuis plus
deux poumons, il en manquait un pour que.
Donc, hop, ça y est, il y en a un deuxième qui a poussé.
T'en es rendu compte au moment où tu le disais en plus, tu m'as dit.
C'est pas faux. J'ai regardé Jérôme Sillon et Jérôme n'a pas voulu me sauver.
Voilà. Ouais, il aime pas. Mais...
Non. Alors, il est très sérieux, tu vois. On déconne
c'est
pas.
Joli, c'est joli.
Sans transition, ils sont tous là. Il était également là cette semaine, bien présent.
Puis c'est plus des gamins maintenant. Ce sont des messieurs.
Wow. J'adore cette fille.
Éric Dimeco, au bord du gouffre, je pense, sur une histoire de musicien dans le Moscato Show. On parle de l'OM en plus, son club.
Voilà, mais après, on avait envie de voir jusqu'où ils étaient capables d'aller, ouais. de ce qui allait se passer. Mais moi, je le répète, attendez la fin de la chanson pour voir comment seront payés les musiciens.
Oh. Oh.
Attendez la fin de la chanson pour voir
comment
payer les musiciens.
En liquide ou
voilà, on peut penser qu'ils s'en sortent à peu près.
Il est musicien en plus.
Je dis ça parce qu'un jour, sur une histoire d'ambulance, il y a quelques mois, quelques années, là il s'est pas du tout rattrapé, Dimeco.
Parce que c'est facile de taper sur l'ambulance une fois qu'elle est à terre.
Mais alors Morico, qu'est-ce qui se passe
à terre? Ah là c'est grave.
Taper sur une ambulance qui est tombée par terre.
Oui, pourquoi pas. C'est imagé.
L'ambulance à terre.
Sans transition. Est-ce que vous voulez un instant charbonnier ou pas?
Oui. Cerise sur le gâteau.
Jingle charbonnier.
Si en bas tu maîtrises pas, comment tu veux qu'en haut ce soit solide? En bas ça doit être très solide pour qu'en haut ce soit très bien.
Mais voilà. Lionel Charbonnier, champion du monde de foot.
Oui.
Solide sur ses appuis dans le journal moyen cette semaine. J'ai écouté les paris RMC parce que Lionel participe au Paris le samedi et le dimanche.
Ouais, c'est là qu'il est le meilleur.
Il est très très bon excellent. Paris. Il connaît tout et tout.
C'est là qu'il est le meilleur.
Même en Paris, il est énorme. Alors, je vous avoue, à un moment pendant les paris, Lionel m'a fait très peur. Il m'a fait très peur sur un buteur de City en championnat en première ligue. Là, Lionel, il m'a fait très peur.
Et avec pourquoi pas le but de Gabriel Jesus qui devrait faire péter le
et alors c'est pas et là il y a le gros doute,
c'est la cote, mais c'était la cote,
on sait pas où il va,
péter le
va-t-il s'en sortir parce que là j'ai peur à ce moment-là, l'instinct de survie messieurs dames.
Et avec pourquoi pas le but de Gabriel Jesus qui devrait faire péter les filets.
Bien rattrapé, mon Dieu. L'instant de survie, vous avez dit.
C'était pas les filets qu'il voulait dire. Hein.
C'était la filets, jackpot. Une belle semaine. Merci, les amis.
Ah oui, très belle semaine. Et magnifique journal moyen. Merci beaucoup, Adrien.
Merci, les amis.
Merci, Adrien.
Bon week-end.
Allez,
bravo, Eric.
Un petit détour par le basket. Tiens, Arnaud Valadon, Kazan Monaco, où on en est?
Ils en sont où, là?
C'est la mi-temps.
On y est ou pas?
Et un point d'avance. C'est très, très
très serré, super. Vraiment. Quel bras de fer. 48 pour Monaco, 47 pour Kazan. Et 8 sur 14 à 3 points pour Monaco, qui fait un festival depuis. C'est comme Jérôme, de loin, ça règle la mire.
Ah ouais, ouais, c'est, non, pas, là, Stephen, c'est pas Stephen Brun qui tire là. Là
pourtant, c'était sa spécialité à 3 points.
Ah bon,
gros shooter.
Il a jamais marqué, mais c'était sa spécialité.
Un point d'avance pour Monaco qui mène à 1-0 dans cette finale. S'il y a victoire, il y aura 10 matchs.
Merci beaucoup. Si, les stats étaient 1 sur 13. Souvent, ils disaient tiens, je suis un tireur à 3 points, 1 sur 13.
Allez, on revient dans le multiplex de Roten Régal maintenant pour lancer avec vous la 35e journée de Liga. On sera à Lille, à Lyon, à Monaco, bien sûr. Restez bien avec nous.
RMC, 18h-20h.
Roten Régal.
RMC,
18h-20h.
Roten Régal. François Pinet,
Jérôme
Roten. 18h59, la deuxième heure de Roten Régal sur RMC, toujours avec François Pinet, avec Jean-Michel Larquet. On s'éclate, on a passé une bonne première heure. Ah, et là, ça va monter en puissance mieux. Parce que là, il y a nos correspondants. Et
on n'est pas comme le chaud. PSG, Jérôme. On est encore mieux la deuxième mi-temps. Tu vois.
Normalement, Jean-Michel te l'a expliqué. Il n'y a pas de raison qu'entre la 45e et la 46e, tu perdes tous tes moyens.
Exactement.
Physiques.
N'oubliez pas, le multiplex foot européen, c'est dans 30 minutes.
Puis on compte sur des mecs qui ont de l'énergie.
On ira en Angleterre.
Il est là.
Va arriver dans un instant.
Nous filer du
mais d'abord, laisse-moi dire que dans 30 minutes.
On fait travailler le bar de touche. Vas-y.
Dans 30 minutes, il y aura Julia Laurence, puisqu'on ira en Angleterre pour les infos sur Manchester City. On ira en Italie, où la saison peut se jouer ce week-end. L'Inter Milan peut être champion, on en parlera avec Johan Crochet. Et puis inscrivez-vous tout de suite pour le quiz de Roten Régal et aidez Captain à enfin mettre fin à sa série de défaites.
Ah, c'est dur, c'est
fait. Il y a 32-16 pour vous inscrire.
Non.
Ah oui, mais ça reste une série.
La semaine dernière, j'ai perdu.
C'est une série d'une défaite.
T'as passé là. Un début de printemps catastrophique.
Allez, tout de suite, comme tous les vendredis, c'est le multiplex.
Allez, annonce tout.
RMC, Roten Régal.
Et la casquette Nissan, elle est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette Nissan.
Le multiplex.
On s'en lasse pas.
Là, ça les met quand ils entendent ces commentaires-là.
Ils sont là, on accueille le leader pour l'instant, toujours leader, Jean Baumel à Lille, avant Lille-Nice. Salut Thibaut.
Bonsoir François, salut, bonsoir Jérôme, bonsoir Captain, bonsoir à toutes et à tous.
Clément Brossard, notre correspondant sur la Côte d'Azur, est là évidemment avant Monaco-Lyon. Salut Clément.
Salut Jérôme, salut Clément. Captain, salut François, et un petit bisou à Edouard qui va connaître sa dernière dans la course au titre.
Ah bah justement, on retrouve Edouard Gen, notre correspondant à Lyon, qui va peut-être jouer sa place sur le podium ce week-end. Salut Edouard.
Ah là, vous connaissez pas le sprint terminal des Lyonnais.
Salut Doudou.
Non, le sprint terminal, non. Et il sera des arbitres gagnants.
Parce que quand tu fais le sprint au début, t'es
cuit. Eh oui, c'est ça le problème. Il sera des arbitres du titre, mais il joue aussi l'Europe. Xavier Grimaud, notre correspondant en Bretagne, est avec nous pour parler de Bordeaux-Rennes. Salut Xavier.
Salut Xavier. Qu'est-ce que c'est la course au titre? J'en ai jamais entendu parler ici à Rennes, à Nantes, jamais. Dans l'Ouest, on connaît pas. Hein.
Ah, quand même, Nantes, il y a quelques années.
Ah, mais j'étais à peine né, moi.
Ah oui, mais t'es trop jeune, toi, c'est vrai. Tu vas nous parler de Bruno Genesio.
C'est Nikita, donc ils n'ont pas joué le titre. C'est les
Il va nous parler de Bruno Genesio, Xavier. Donc restez bien avec lui. Parce que ça,
rien que pour toi, Jérôme.
C'est juste pour Jérôme.
Là, il parle beaucoup mieux de football depuis qu'il y a Bruno Genesio.
Une série incroyable de victoires. Il va nous en parler. L'affiche de la 35e journée. On va commencer par ça. C'est Monaco-Lyon, dimanche, 21h.
Attention,
et on va commencer avec toi, Edouard, justement. Lyon est à 4 points du podium en cas de défaite. Ça fera 7 points. À 3 journées de la fin, donc ça veut dire peut-être la fin pour le podium. Dernière chance, Edouard, pour l'OL d'accrocher une place sur le podium.
Ouais, à quoi on voit que la semaine est décisive ? Eh bien, le président Jean-Michel Aulas est présent à l'entraînement. Dans ce début de printemps en pente douce, fini la formule des 10 matchs, 10 finales. C'était mi-mars avant un déplacement à Reims. Depuis, 6 matchs se sont déroulés en 7 semaines. Reims, Paris, Lens, Angers, Nantes et Lille. 2 nuls, 2 victoires, 2 défaites, 8 points sur 18 en termes de points. La défaite en Coupe de France face à Monaco, un décrochage au classement. Et puis désormais, donc 4 points de retard sur cette 4e place. Du coup, quitte au double, c'est Jean-Michel Aulas qui l'a utilisé cette semaine parce qu'il a parlé en marge d'une conférence de presse de présentation de la nouvelle entraîneur de l'équipe féminine Sonia Bonpastor. Il en appelle à l'Union Sacrée. Alors, la Ligue 1, la Ligue des Champions, plus justement, c'est donc l'objectif numéro 1. Mais c'est un quitte au double, tu l'as dit, François. Duquel ce quitte au double, gardien du temple et des buts, Anthony Lopez veut sortir gagnant. Lui qui a l'ADN OL dans le sang et les gants, il en voudra peut-être un petit peu plus que les autres dimanche soir. D'où les mots clairs, nets, précis et tranchants, comme c'est sorti à l'évocation d'une fin mai sans Ligue des Champions.
C'est sûr qu'une deuxième année sans Ligue des Champions sera un énorme échec, ça c'est sûr et certain. Maintenant, c'est pas du tout dans ma tête. moi je garde l'état d'esprit à gagner le match dimanche.
Pour penser qu'on est capable de faire des choses extraordinaires, bien sûr que le groupe a les ressources nécessaires pour faire basculer tout ça du bon côté. Bien sûr, j'ai aucun doute là-dessus.
Ouais, mais on sent quand même que la semaine n'a pas été facile à gérer, même si Rudy Garcia estime que la semaine d'entraînement a été très bonne en matière de concentration et d'implication. Il l'a répété, une victoire et l'OL revient un petit point de Monaco. Peut-être plus facile à dire qu'à faire.
Ils peuvent tout gagner, c'est ce que disait Rudy Garcia.
Ils peuvent battre tout le monde. Il y a 10 matchs, comme Edouard te le disait, c'était le cas aussi. Il y avait 10 finales, sauf que le bilan il est catastrophique. Et que moi j'y crois pas comme ça au sursaut d'orgueil et d'un seul coup aller gagner les 4 derniers matchs comme ça, sachant qu'ils vont jouer quand même une équipe de Monaco qui est en pleine bourre, qui déroule son foot, qui a l'avantage de recevoir. Alors même si c'est un contexte particulier, on sait aussi ce qui s'est passé sur le match de Coupe de France.
On va en parler d'ailleurs avec Clément.
Ouais. Voilà, donc c'est une source de motivation supplémentaire pour les Monégasques, même s'ils n'avaient pas besoin que de ça. Et puis ils savent aussi les Lyonnais que même un match nul, c'est mort. C'est quasiment mort. Tu fais un match nul là, tu restes à 4 points de Monaco. Je vois pas sur les 3 dernières journées comment ils pourraient récupérer les 4 points sur l'AS Monaco, sachant que le goal average en plus n'est pas forcément favorable par rapport aux équipes qui sont devant. Donc je ne crois pas. Après le discours du président qui sort du bois, qui donne un petit peu des motifs d'espoir, mais
je sais pas si tu l'as regardé expliquer que 4 points, 4 matchs, 12 points, je l'ai senti, c'était passablement désabusé, c'est rare chez le président Aulas, mais j'ai vu cette conférence de presse, Doudou, et je l'ai senti un tout petit peu au bout du rouleau là-dessus. Hein. Bon, 4 x 3, 12, c'est vrai que c'est évident, ça, 4 x 3, 12. Hein.
Ouais, mais si tu l'as ressenti à travers ce que tu as lu et vu, en fait, de près, quelque part, bien évidemment, j'étais dans la salle de conférence de presse, ça, c'est flagrant, quoi, en fait. Donc, si ça s'est encore mieux vu, on va dire, à travers la vidéo, c'est preuve qu'on a l'impression qu'on n'y croit plus vraiment, quoi, en fait.
Ah ouais. Si Jean-Michel Aulas baisse les bras,
Le pire,
c'est pas qu'il baisse les bras, mais c'est, tu sais, quand tu dis, voilà, il faut gagner les 4 derniers matchs, il y a la façon de le dire, il y a le regard, ouais. Jean-Michel l'a dit, il y a le ressenti aussi qu'on avait en conférence de presse. Oui, il était là en disant, voilà, il y a 67 points, tu gagnes 4 fois 3, ça fait 12, 67 plus 12, ça fait 79.
Ouais, exactement,
il dit ça comme, c'est comme on pourrait faire une multiplication et une addition à quelqu'un qui apprend à compter, quoi, sans vraiment de conviction.
Le pire, en plus de ça, tu peux nous sortir tous tes schémas mathématiques que tu veux, mais que même en gagnant les 4 derniers matchs, t'es même pas sûr de finir sur le podium.
Tu es
à 4 points, tu resteras à 1 point. Si Monaco fait un sans faute derrière, alors oui, il y a l'impact psychologique si tu veux. C'est vrai que le fait d'aller gagner au Stade Louis II peut mettre un petit peu de doute dans la tête des Monégasques et se faire accrocher sur un des 3 derniers matchs. Mais quand même, ils partent de très loin, Lyon, et on sait très bien que le dernier match contre Lille, c'est peut-être là que la cassure a été définitive.
Alors qu'ils menaient 2-0, hein.
C'est un ensemble de choses, et encore une fois, c'est pas avec des beaux discours et des trucs, il reste 4 matchs, 12 points à prendre. On le sait.
En tout cas, il reste 4 matchs, mais les 8 précédents montre que la dynamique est pas terrible.
Elle est pas bonne.
Effectivement. Elle est pas bonne.
On va passer à Clément, justement. Clément Brossard à Monaco, l'adversaire d'Edouard Jay et de Lyon. Donc, tu disais un petit peu tout à l'heure, en te moquant d'Edouard, que c'était fini pour le podium. Ça, c'est pas sympa. L'AS Monaco, qui a l'occasion de s'installer presque définitivement sur le podium, du coup, en cas de succès. Est-ce que le souvenir du match de Coupe de France de la semaine dernière, qui était tendu, hein, entre les deux équipes, est encore présent du côté de Monaco? On a entendu d'ailleurs cette semaine Juninho en parler aussi du côté de Lyon.
Ah oui.
Alors oui, en fait le feeling n'est pas très bon avec Lyon, pour tout vous dire. Certains joueurs n'avaient déjà pas apprécié le comportement assez hautain des Lyonnais, selon des proches du club, après le match aller remporté 4-1 par l'OL au Groupama Stadium. Et puis il y a quelques semaines, on a vu en effet un match assez rude physiquement, pas mal de coups, des petits règlements de compte. Kovac, généralement calme, s'est un peu énervé contre un adjoint de Rudy Garcia, une des premières fois qu'il s'agace autant. D'ailleurs, il avait demandé au banc lyonnais du respect quand Diop a été taclé par Deschiglio entraînant l'entorse du Monégasque. Et en conférence de presse il y a quelques heures, il a calmé un peu le jeu en disant qu'il a
avait surtout essayé de réduire les tensions. Il a souvent évoqué l'arbitre de dimanche également, Clément Turpin, pardon, vous y verrez le signe que vous voulez. Ce sera un des meilleurs arbitres au sifflet, a souligné le coach de Monaco. Et puis, derrière, l'entraîneur s'est présenté Kevin Folland. Lors du dernier affrontement, il avait un peu mis le feu aux poudres en adressant un coup à Paqueta après 10 secondes jeu. Il a vite balayé le sujet. Je pense pas commencer le match de dimanche comme la dernière fois. J'ai été averti. Passons à autre chose. Kevin Folland qui s'attend à un combat engagé dimanche. Écoutez-le.
Je pense qu'il y aura autant de tensions que lors du match de coupe. Ce sera un match très dur, une sorte de finale. Les points sont importants. Lyon va se battre jusqu'au bout. On veut creuser l'écart et remporter ce match à domicile.
We fight for the points, but we as well, and we play at home.
Ils sont très excités, les Monégasques, qui sont surmotivés, même ça se voit, ça s'entend à l'entraînement à quelques heures d'un des tournants de cette saison. Kovacs a conscience qu'une victoire éliminerait Lyon de la course à la Ligue des Champions, donc le match est lancé. Et puis source de motivation supplémentaire pour les Monégasques. Vous savez pourquoi, messieurs ? Chose très très importante, ça sera sous les yeux de Jérôme Rotten au Stade Louis
II. Eh oui.
Ah là là, mais t'avais le droit de donner cette info ? Parce que là, tout le monde va vouloir se rendre au Stade Louis II alors que c'est interdit, hein, on peut pas.
Écoute, ils me feront une petite escorte.
Toi, t'as le droit d'aller voir les matchs. Alors
j'ai le droit, je travaille.
En tant que professionnel, évidemment.
Bien sûr.
Commentera le match avec Jeannot Rézégué.
C'est retransmis en direct sur RMC.
Voilà. Oui.
Ça va être grand.
Un grand spectacle.
Non, mais déjà, oui, parce que c'est une affiche alléchante. Là, on critiquait les Lyonnais, mais ça reste une grosse cylindrée de notre championnat. En termes comptables, ils font quand même une belle année. Monaco, c'est vraiment la grosse surprise. Non, c'est un match bien. Et pour parler des Monégasques, en effet, moi aussi, j'ai eu des échos comme Clément de l'attitude. On parlait de Juninho juste avant, l'attitude qu'il a pu avoir aussi avec Folland suite au coup à la mi-temps dans les couloirs. Là, tout ça, ça reste dans les mémoires des joueurs et ils ont envie. C'est une façon de se venger. Mais attention à pas sortir du match parce que quand tu vas être trop agressif, tu peux déjouer. Donc là, l'excitation.
Je crois pas que ce soit un terrain qui leur convienne.
Oui, exactement. Ouais, parce qu'en face, t'as du répondant.
S'ils mettent la maillotche comme argument premier, je pense que
c'est pas par là que ça
va. C'est pas la bonne chose. Ouais,
exactement. Alors c'est pour ça que Kovacs sera là pour apaiser les tensions. C'est généralement ce qu'il a voulu faire passer comme message. Et puis juste une petite information pour vous dire que si Jean-Michel Aulas était à l'entraînement des Lyonnais, Paul Mitchell, le directeur sportif, était présent à la séance ce matin.
Et du côté de Lyon, on a bien évidemment reparlé aussi de ce match il y a 10 jours. Et quand on a posé la question à Anthony Lopez sur le thème, est-ce qu'il va y avoir de la revanche dans l'air, il a dit non, pas de revanche. Il y a une revanche à avoir, c'est par rapport à nous-mêmes et par rapport à la prestation de Lille. On a, que ce soit Rudy Garcia ou Anthony Lopez, évacué ce côté belliqueux, on va dire, de cette affiche 10 jours après ce quart de finale électrique.
Puis messieurs, on se souvient du match aller aussi, hein, où Monaco avait plutôt bien joué, mais s'était fait piéger par Lyon qui s'était imposé 4-1. Ça reste peut-être dans les mémoires. Oui, bien sûr, c'était il y a longtemps maintenant.
À l'époque où il y avait les portes ouvertes au niveau de la défense.
Ah ouais, là, exactement. Il y a eu les portes ouvertes.
Mais c'était un véritable test et un véritable tournant, hein, ce match au Groupama Stadium, parce que Niko Kovac s'est rendu compte qu'on pouvait pas forcément jouer comme ça contre les cadors de Ligue 1. Il avait fait un test en essayant de presser très haut et tout de suite il s'est ravisé et c'est à partir de là qu'a commencé l'ambition monégasque.
C'est vrai, c'était même un tournant dans la saison de Monaco. Le tour du stade, messieurs, dans le multiplex de Rotten Regal à 19h12 exactement. Une info.
Allez, soyez précis.
Jean Baumel, on va commencer par toi, Thibaut. À Lille,
merci.
Info sur le groupe Lillois d'abord.
Le groupe Lillois, bonne nouvelle, au complet. Il y avait une petite incertitude hier avec Weah et Sanchez. Donc Christophe Galtier a tout son effectif. Alors la compo probable, ça devrait être donc Maignan. Et en défense, de gauche à droite, Reynildo, Botman, Fond, Celik. André Soumaré au milieu, avec Bamba qui va certainement retrouver sa place de titulaire puisqu'il était sur le banc contre Lyon. Iconé ou Sanchez à droite, et puis devant, David et Yilmaz.
Lille-Nice, hein, demain 21h. Xavier Grimaud, on a appris aujourd'hui un gros coup dur pour Angers.
Oui, gros coup dur qui est tombé sur le SCO. Condamnation de la FIFA pour violation des conditions de transfert relais, amende de 30 000 francs et surtout interdiction de recrutement lors du prochain mercato. Alors Angers va faire l'appel, tout comme le Paris FC, parce que les deux clubs sont concernés. L'affaire, je vous la fais rapide, concerne le transfert d'un illustre inconnu, Kevin Bemanga, 22 ans. Il est arrivé en août dernier, il avait signé son premier contrat pro. La FIFA reproche aux deux clubs d'avoir voulu contourner les règles concernant les indemnités de formation. C'est une nouvelle règle, première fois qu'une sanction tombe. Ça pose pas mal de questions parce que
Stéphane Moulin a déclaré cet après-midi, Bemanga, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, il a été rapidement prêté en Suisse. Et il y a pas mal de joueurs de son agent qui sont placés au SCO.
Étrange.
Ils ne pourront pas recruter Mbappé, c'est terrible.
Angers qui sera à Lorient dimanche.
Je croyais que c'était l'annonce d'un entraîneur. Je croyais qu'ils avaient annoncé Michael Landreau. C'était ça la mauvaise nouvelle.
N'importe
Attends,
quoi.
Patience, patience.
Edouard, des infos sur le groupe lyonnais justement avant le choc face à Monaco.
Alors, retour de Sinali Diomandé qui était suspendu après son expulsion en Coupe de France. Jason Denayer, voûte plantaire et Islam Slimani, douleur à la cuisse. Très incertain, il ne devrait pas être dans le groupe de dimanche. Melvin Barr, a priori, il a le Covid. On n'a pas eu plus d'informations, donc il est à l'isolement. Et donc, beaucoup de questions, notamment devant. Et a priori, on se dirige vers une défense à 4, mais avec beaucoup de questions sur les joueurs qui vont alimenter les autres lignes de la compo.
Et le groupe monégasque, Clément, avant justement ce choc face à Lyon.
Alors ça m'arrange d'entendre des absents côté lyonnais parce qu'il y en aura côté monégasque pas mal même, Golovin Gelson pour des raisons de Covid, Diop pas remis de sa cheville, Jovetic touché au mollet, mais Kovac pourra toutefois compter sur sa défense au complet, sur son duo d'attaque Ben Yedder Folland, sur sa paire au milieu de Tchouaméni Fofana ô combien importante, et puis les latéraux Caio Henrique et Aguiar qui pourraient être placés dans une position plus offensive.
Gagnez maintenant votre place pour la finale de la Ligue des Champions.
Envoyez foot par SMS au 732-16. Foot au 732-16.
Et voilà, vous l'avez compris, Roten Régal, hein, porte bien son nom.
On régale.
On vous régale avec. Vous avez 20 minutes maintenant pour participer.
Je régale.
Pour remporter votre place.
À porter ma valise.
La place, le vol, l'hébergement pour la finale de Ligue des Champions qui aura lieu le 29 mai prochain à Istanbul. Donc vous avez 20 minutes pour participer. Vous envoyez foot tout de suite au 732-16. Voilà, on vous régale dans Roten Régal et sur RMC. Le basket, la finale de l'Euro Coupe, on y va.
Casal
Monaco.
C'est du 50-50 parce qu'il y a 50-50 au tableau d'affichage.
52-50.
Ouais, 52-50 pour Monaco. C'est vraiment un gros mano-mano. 7 minutes 10 encore à jouer dans le troisième quart-temps. Et donc à peine 2 points d'avance.
Je viens
pour
le faire,
AS
Arnaud,
Monaco.
Si tu suis pas le match. Hein.
Si, je suis.
Viens en cabine.
Mais viens, viens en cabine avec moi, avec plaisir.
Non, il y a encore du boulot
appelle,
là.
Appelle Stephen Brun qui vienne, qui nous explique les
Stephen
paniers.
Brun qui suit ça de très très près. Évidemment, Arnaud Valadon qui suit donc ce Kazan Monaco. On va suivre la fin du match avec toi, bien sûr. On vient tout de suite dans Roten Régal pour la suite du multiplex. On va parler 54, avec Jean Baumel du leader lillois et du bon début, des bons débuts de Bruno Genesio à Rennes. Allez, à tout de suite.
RMC
18h-20h
Roten Régal. François Pinet,
Jérôme Roten.
19h17, toujours dans Roten Régal, bien sûr. François Pinet, Jean-Michel Larquet. Allez, François, on continue le multiplex. Il y a des bonnes infos.
N'oubliez pas que dans 15 minutes, le multiplex européen, on ira en Angleterre pour des infos sur City avec Julien Laurence. Et en Italie, où l'Inter peut être sacré ce week-end pour la première fois depuis 11 ans. N'oubliez pas aussi le quiz 32-16, hein, si vous voulez vous inscrire pour jouer avec Jérôme ou avec Captain. On retourne à notre multiplex de la 35e journée de Ligue 1 avec Édouard Jay, Clément Brossard, Xavier Grimaud et Jean Baumel. Gibo, justement, le LOSC qui reçoit Nice demain à 21h, une semaine après leur victoire contre Lyon. Lille est donc à 4 marches du titre seulement, mais le problème, Gibo, pour Lille, c'est qu'ils jouent à domicile ce week-end.
Oui, c'est vrai qu'à domicile, c'est pas terrible. D'ailleurs, sur les 4 équipes de tête, Lille, c'est le moins bien classé au niveau des matchs à domicile. Seulement 3 victoires en 2021. Et puis surtout, ces derniers matchs, 6 points de prix sur 15. Des nuls, notamment contre Brest, Strasbourg, Montpellier, une défaite contre Nîmes. Alors, il y a eu heureusement une victoire contre l'OM. Et en dehors de l'OM, et face à Montpellier, Strasbourg et Nîmes, à chaque fois ils ont été menés, et c'est vrai que ça devient problématique parce que Lille perd beaucoup de points, et on voit aussi que Nice a gagné facilement contre Montpellier dimanche dernier, alors que Lille avait galéré contre Montpellier il y a 15 jours de cela. Donc on va écouter Christophe Galtier parce qu'il en a vraiment conscience et il en a parlé à ses joueurs de ce problème à domicile.
Il y a ce que l'on faisait à domicile sur les 17 premiers matchs et ce que l'on fait à domicile depuis 2021. Et c'est insuffisant en termes de résultats et c'est insuffisant dans le contenu sur les entames de match. Donc on doit non pas être vigilant, parce qu'on l'est, on ne doit pas être plus vigilant. On doit y mettre d'autres ingrédients pour que nos entames de match correspondent à ce que l'on veut faire sur cette fin de championnat.
C'est ce qu'on a remarqué aussi. On l'a vu contre Lyon, on l'a vu contre Montpellier et d'autres matchs. Ces derniers temps, les premières mi-temps de Lille, c'est pas terrible. C'est ce que disait Christophe Galtier. Les entames sont difficiles et souvent ils sont à voir. Les blocs bas, c'est compliqué et on voit les résultats face aux gros. Eh bien, c'est plus facile. Il y a des espaces, hein, on le voit à chaque fois. Voilà, ils vont devoir forcer leur talent. Et c'est vrai, Jérôme, on le disait souvent et Captain, c'est que le problème de Lille à domicile, quand il y a des blocs bas, ils veulent absolument rentrer dans la surface pour marquer. Bah, marquer à l'extérieur de la surface, comme a fait Bourak contre Lyon sur un coup franc. C'est ce qui manque un petit peu. Donc, à domicile, franchement, il va falloir vraiment que Lille fasse beaucoup plus parce que c'est peut-être là qu'ils vont perdre des points.
Ouais. Oui, sauf que dans ce match-là, Nice n'a rien à perdre, rien à gagner. Donc, on peut considérer que, Nice ne va pas venir avec l'intention forcément de mettre un bus devant la ouais. cage de Benitez.
C'est possible. Mais il reste en tout cas sur une belle série, les Niçois. Clément, 8 matchs, une seule défaite. Hein.
Ouais, ouais, les Niçois, ça va mieux. Après, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, ils sont largués au classement. Du moins, ils n'ont plus rien à jouer. Donc, on a vu les failles de cette équipe plus d'une fois. Je trouve que ça manque souvent de concentration, de motivation, et puis par moments de talent aussi. Ah, si Lille est sur la bonne dynamique, et elle l'est, hein, quand tu as gagné à Lyon de la sorte, ça te donne de la force encore plus. Je pense que ce match-là, ils peuvent se le rendre facile.
Même si Jérôme, quand même, il y a certaines équipes dont on dit ils ont plus rien à jouer. Non, c'est non, peut-être là où parfois c'est le plus dangereux.
Écoute, ces François,
équipes qui jouent tranquillement.
Je tiendrai peut-être pas ce discours-là quand ils iront à Lens ou quand ils vont recevoir Saint-Etienne, parce que c'est les deux matchs qui vont suivre ce match-là. Si Djibo me confirme bien que je ne dis pas de bêtises. Ces deux matchs-là, après, si jamais ça se passe bien, en toute logique, ça doit bien se passer contre Nice. C'est après, parce que après, il y a le côté psychologique, mentalement, gérer la pression, parce que chaque faux pas est définitif si le PSG ou Monaco continue à faire un parcours sans faute. Et là, en effet, puis le derby aussi qui va arriver, tout ça fait que là, tu peux perdre un peu les pédales, mais et avoir un peu trop d'excitation. Mais sur le match de demain. Franchement,
ils avaient fait match nul contre Montpellier, c'est ça. Oui, en fait, c'est les références récentes qui dans font un peu
encore
peur.
Une fois la victoire à Lyon, les gars. Il faut pas oublier qu'à Lyon, tout le monde les voyait perdants. Et de la façon dont ça s'est passé, ouais. Mais tu te rends compte la force que ça donne au groupe. Mais écoute, même s'il y a des manques, bien sûr, tout n'est pas parfait. Et Djibo a raison, à domicile, sur un bloc bas et tout. Mais Jean-Michel aussi a raison. Nice, ils vont pas mettre le bus. Ils ont aucun intérêt à mettre le bus. Ils vont essayer de jouer, préparer déjà l'avenir, préparer la saison prochaine. Et quand tu joues.
C'est pas le genre des Niçois de mettre le bus non plus, Jérôme. Ils jouent généralement. Il y aura pas Gouiri, il y aura pas Thuram.
De toute façon, c'est dur de mettre le bus avec les défenseurs centraux. Tu peux me le rappeler, les défenseurs centraux de Nice, là?
C'est pas mal puisqu'il y a eu le retour de Todibo Saliba qui a apporté un peu plus de sérénité.
Saliba, il a dit qu'il était le meilleur.
Ah oui, oui.
Que Varane et Kimpembe.
Ouais, il n'avait rien à envier à Varane et Kimpembe.
Bon,
réuni.
Oui, puis on l'a vu depuis qu'il est arrivé.
On va parler un petit peu de Rennes maintenant. Xavier Grimaud, notre correspondant en Bretagne. On va parler de Rennes qui se déplace à Bordeaux dimanche. Et surtout de Bruno Genesio. Xavier, dont l'arrivée à Rennes est un succès pour l'instant.
Bah oui, c'est un succès. Bruno Genesio réalise tout simplement, messieurs, les meilleurs débuts d'un coach dans l'histoire du Stade Rennais. Avec 16 points sur 21 possibles. Sac victoire, un nul, série en cours, mieux que Stéphane, qui était deuxième en termes de ratio. Il y a un effet Genesio dans les résultats de l'équipe. Genesio, il a réveillé un groupe et une équipe qui a des qualités réelles. Je pense quand même au milieu de terrain et devant, notamment, il y a quand même des bons joueurs qui n'y arrivaient plus sous Julien Stéphane. La méthode, elle a été assez simple, beaucoup de discussions. Libérer les blocages dans les têtes, car apparemment il y avait vraiment énormément de doutes chez les joueurs qui baissaient un petit peu la tête et rentraient la tête dans les épaules, et surtout prendre des risques sur le terrain. Et ça a donné beaucoup d'enthousiasme depuis quelques matchs du côté du Stade Rennais, le plaisir de jouer tout simplement. On peut écouter Bruno Genesio.
Ça fait déjà un moment qu'on a des sourires à l'entraînement, qu'on a aussi du sérieux et de la qualité, ce qui est quand même aussi le plus important, de la confiance, et on sait à quel point la confiance est importante dans notre métier. Mais toujours, comme je l'ai déjà dit, la confiance n'empêche pas la vigilance. Toujours en alerte, toujours observer des signes qui peuvent parfois laisser penser un relâchement ou un manque de concentration. C'est notre job au staff et au coach de veiller à tout ça. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien.
Ah ouais. Bruno Genesio n'a pas
les poils. J'ai les poils.
J'en entends qui rigole. Ouais, ouais. Bruno Genesio, Jérôme n'a pas révolutionné la compo d'équipe.
Il m'a bien réveillé.
Il y a quand même deux choix.
Par contre, j'ai perdu François, il s'est endormi.
Ouais, deux choix ultra payants qui ont été faits. Si vous permettez que je termine, relancez Flavien Tay au cœur du jeu. Et puis Martin Terrier, hein, qui est retrouvé depuis que Genesio est là, avec 5 buts et 3 passes quand même sur les 7 derniers matchs. Donc il y a une équipe quand même qui ronronne moins et une équipe qui va peut-être pouvoir au forceps atteindre son objectif de la saison, savoir se qualifier à nouveau pour la 4e fois de suite en Coupe d'Europe. L'équipe est mieux quand même, Jérôme.
Non, mais c'est vrai. Là, on rigole, je plaisante sur le truc. Non, mais c'est vrai. Il faut reconnaître qu'il a réveillé. Il avait ce groupe qui était en grande difficulté, en effet, dû à plein de choses, hein, pas que dû au fait qu'ils étaient lassés du discours de Stéphane. Je pense que les ambitions rennaises étaient bien trop élevées cette année, qu'il y a eu des erreurs, énormément d'erreurs dans le recrutement pour rivaliser avec les meilleures équipes du championnat et aussi rivaliser en Ligue des Champions. Et on a vu que ça avait fait l'effet inverse, des joueurs dans le doute, un entraîneur qui a lâché prise au bout d'un moment. Donc je te dirais que c'était assez facile pour Bruno De Genesio de réveiller ce groupe. Rennes n'a pas l'effectif aujourd'hui pour finir 10e ou 15e du championnat. Par contre, Rennes tombé dans l'anonymat comme ils l'ont fait, c'est leur place et c'est ce qu'ils voulaient dans tous les cas. Donc même si Xavier, tu dis à juste titre que peut-être qu'il joue la place en Coupe d'Europe, bon, déjà quelle Coupe d'Europe ça va être et comment ils vont la jouer, dans quel état. Voilà, il y a eu l'effet, mais attends, il faut pas non plus partir dans des Genesio a tout transformé. Genesio, c'est pas un entraîneur malheureusement qui transforme ses équipes.
Ils vont être arbitres de la fin de saison aussi, un match contre le PSG puis Monaco, donc ça va être important aussi pour eux.
Bah, s'ils ont des ambitions, ils vont les jouer à fond ces matchs-là dans tous les cas.
Hein. Ouais. Captain, tu voulais rajouter quelque chose sur Bruno Genesio ?
Non, finalement.
Oh, il s'est parmi du discours.
Bon, non, mais moi c'est vrai que le discours m'a bouleversé.
Bon, d'accord, ok. On en reste là, alors, Captain.
Non, mais attends. Mais quand j'étais d'active, comme disait l'autre, je faisais des fixettes. Mais Jérôme, tu prends bien le chemin quand même.
C'est vrai. Mais c'est le maître et l'élève. C'est sûr.
Écoute-moi, moi, mais je croyais qu'il avait. Ouais, que t'avais perdu un petit peu ta splendeur là-dessus, Jérôme, mais.
Non,
on n'a pas parlé de Didier Diguerre encore en plus.
Non, ne le lancez pas, s'il vous plaît. On a un conducteur à tenir.
Moi,
on va pas y arriver.
J'ai toujours suivi Jean-Michel dans tout ce qu'il avait. Et c'est vrai, en effet, il y a des fixettes.
Même avec ses excès. Même avec ses excès.
Beaucoup trop.
Et ses petits défauts. Bon, le tour des stades dans le multiplex de Rotten Régal à 19h26. 4 infos, une info chacun, messieurs. Edouard, on va parler de Lyon avec les joueurs qui ont eu 2 jours de repos cette semaine. Et ça a surpris un petit peu tout le monde.
Ouais, il y a eu un petit débat d'idées à Lyon. Comment gérer cette semaine de remobilisation entre 2 rendez-vous d'importance, dont un complètement manqué comptablement, c'était donc face à Lille. D'aucuns ont rappelé que dans des grandes années, dans des époques comme ça, il y avait des stages qui étaient organisés à Évian, à Aix-les-Bains, pour un petit peu remobiliser tout le monde. Les mêmes ont souligné qu'il y a eu 2 jours de repos retour mercredi matin. Et Rudy Garcia a semblé un petit peu sur les nerfs sur cette question. Là, il a parlé, lui, de fraîcheur mentale. Ça fait 10 mois qu'on est sur le pont parce qu'on a commencé au mois de juin dernier. Dans cette période, il faut aussi donner un petit peu de repos, notamment aux internationaux. Chose faite, et il faut garder le cap et gagner à Monaco. Voilà les propos et la réponse de Rudy Garcia.
Clément, Nice se rend à Lille et ça sera un arbitre de cette course au titre, les Niçois.
Ouais, parce qu'il y a ce match à Lille demain et un match à Lyon lors de la dernière journée. Jouer contre des équipes avec de tels objectifs, c'est un levier de motivation, a expliqué Adrien Urcea. Et si Jean-Claire Todibo, le défenseur, ne nous a pas donné de favori hier en conférence de presse, eh bien Morgan Schneiderlin a lui expliqué après la victoire contre Montpellier la semaine dernière que pour lui Paris était favori et qu'évidemment il aimerait ne pas voir Monaco sacré champion, même si évidemment ils donneront tout face à Lille et Lyon. Il y a la petite rivalité quand même locale.
Évidemment. Jean Baumel, dans le Nord, Lens qui sera face au PSG avec son gardien remplaçant. Ce sera pas le cas.
Ouais, et petite info qui est tombée tout à l'heure, Kakuta sera dans le groupe, donc bonne nouvelle pour les Lensois. Ouais. Et l'absent majeur, c'est surtout Badé et Aïdar. Pour le reste, tout le monde est là. Et c'est vrai que et Jean-Louis Eka, bien sûr, qui lui est absent. Et donc Farinez, le gardien international vénézuélien de 23 ans, va faire ses grands débuts, en tout cas en tant que titulaire en Ligue 1 face au PSG. Donc vous imaginez un petit peu pour ce garçon de 23 ans. Alors il a d'expérience, c'est un joueur adoré par Jonathan McCarthy parce qu'il en parle tout le temps en bien. On a vu quelques passages. Ouais. Il est intéressant, il est assez spectaculaire. Donc, ça sera l'une des attractions demain au Parc des Princes.
Bon, si Jonathan l'aime bien, alors.
Alors, je peux dire qu'il en parle tout le temps et j'ai vu quelques exploits. Moi, c'est pas mal.
J'ai vu le match contre le Red Star.
Ah oui, bon. Non, là.
Je suis désolé, mais je peux avoir des doutes.
C'est pas celui-là qui fait.
T'as pas regardé le bon match.
Bah, en fait, faut pas regarder les matchs parce qu'il n'a pas fait beaucoup. Donc, en fait, faut pas le regarder.
Xavier, un mot aussi de Nantes qui poursuit son opération maintien. Ça sera à Brest ce week-end après sa victoire contre Strasbourg la semaine dernière.
Ouais, et cette victoire à Strasbourg, alors que Nantes était menée au score 19e et largué, ben voilà messieurs, le tournant de la saison pour les Canaries, parce que Nantes est désormais barragiste avec, je cite Camboiré, un calendrier sans excuses pour ne pas se maintenir. On va à Brest pour gagner, peu importe comment, peu importe combien. Voilà, les Brestois, les Nantais ont un calendrier qui paraît assez simple sur le papier. Le bémol, et c'est un gros bémol, c'est que Nantes n'a jamais enchaîné deux victoires cette saison. Ce serait le bon moment pour casser ça à Francis Leblay.
Brest-Nantes, ça sera dimanche à 15h. Merci beaucoup Xavier, merci Edouard. À très bientôt. Merci Clément.
Merci Clément.
Et merci Djibo.
Bonne soirée à tous. À demain.
Bonne soirée, bon week-end à vous.
On vous écoute bien sûr.
Prépare-toi, Edouard. On arrive.
Arnaud Baladon pour le basket. Kazan, Monaco. Où on en est
cette finale de Recoupe?
C'est toujours le même scénario. Un point d'avance seulement pour Monaco. Il reste 30 secondes dans le troisième quart-temps. Il y aura encore 10 minutes après. 64-63. Les Monégasques ont eu 4 points d'avance.
Irrespirable.
Ouais, exactement. 5000 personnes en plus en Russie à Kazan. C'est étouffant, irrespirable. Tu l'as dit, Jérôme. Mais Monaco est vraiment dans le coup. Et égalité désormais, 64 partout. Et même un point d'avance désormais pour Kazan, 65-64. 30 secondes à jouer dans le troisième quart-temps.
On suit ça de très près. Merci beaucoup, Arnaud. Le quiz, n'oubliez pas, ça sera à 19h45, 32-16 pour y participer avec la team Jérôme ou la team Jean-Michel. Mais tout de suite, ça c'est le multiplex européen dans Rotten Regal. On va aller en Angleterre et en Italie où la saison se joue peut-être ce week-end. Restez bien avec nous.
RMC Rotten Regal. François Pinet,
Jérôme Rotten.
19h33, toujours dans Rotten Régal. François Pinet, oui. Jean-Michel Larquet, toujours avec moi. Avant le quiz.
Oui, le quiz, n'oubliez pas, 32-16 d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
C'est un moment.
Avant le quiz, on va lancer le multiplex européen.
On y va, on va en Angleterre et en Italie ce soir.
RMC, Rotten Régal.
Et on cherche toujours le but de Jérôme Rotten avec les Glasgow Rangers, commenté en anglais. On va essayer de. On est en train de fouiller.
Il faut le retrouver, ouais. À l'entraînement, c'est sûr qu'il y en a eu.
Les archives, c'est compliqué.
Il faut l'inventer, non?
Car on a entendu. Julien Laurence est là.
Elle commence pas à m'attaquer.
Salut Julien.
Salut Julien.
Salut à tous.
Le correspondant en Angleterre. Et Johan Crochet pour le foot italien. Salut Johan.
Salut messieurs.
Tu t'es remis de l'humiliation de ton compère Julien hier soir, la 6-2 Manchester United contre la Roma.
Quelle humiliation? Quelle humiliation.
Ça pique encore un peu, je dois vous avouer. J'étais à peine remis du 7-1 de 2007, et là il y a un 6-2, donc ça fait toujours aussi mal.
Non, heureusement, t'as la Ligue des Champions pour te rattraper.
Exactement, ouais, sans
chance,
problème.
La semaine prochaine.
Ah oui, c'est très galère cette saison, Johan, hein, c'est vrai. Hein, les clubs italiens, ils font plaisir à voir hein, en Coupe d'Europe.
Il y a pire, il y a Polo qui est même pas en demi-finale depuis des compétitions. Donc,
n'attaque pas les absents.
Je suis pas dernier.
N'attaque pas les absents. Julien, tiens, on va commencer par toi et par le week-end de City avant de retrouver le PSG pour le retour de la demi-finale. City qui joue demain contre Crystal Palace. Il y a une chance d'ailleurs pour que City soit champion hein, dès ce week-end. Et la question qu'on se pose, c'est comment Guardiola va-t-il gérer ce match? Parce qu'on s'est posé la même question avec Pochettino en début d'émission par rapport au match de Lens ce week-end.
C'est vrai. Alors il a un effectif pour faire tourner, bien sûr. Pep Guardiola, on le sait bien. Même si il faut juste regarder le banc de mercredi soir. Finalement, les Sergio Aguero, les Raheem Sterling par exemple, ou même des Ferran Torres, Fernandinho, etc. peuvent facilement jouer et aller à Crystal Palace, l'emporter et peut-être être champion dès ce week-end. Effectivement, si le reste des résultats vont dans leur sens. Donc ça, c'est facile à faire. Alors est-ce que tu gardes un plus gros noyau de l'équipe de mercredi et de l'équipe qui jouera mardi pour garder cette dynamique positive et continuer, même si tu peux faire jouer que des 60 minutes à De Bruyne ou à Phil Foden par exemple? Ou alors est-ce que tu changes pour faire reposer un petit peu les jambes avant mardi? Justement, ils s'attendent à un gros combat mardi soir. Pour eux, c'est pas du tout fait, c'est pas du tout gagné encore cette place en finale. Donc c'est, on va voir ce qu'il va choisir. Moi, je pense qu'il va largement faire tourner, qu'on pourrait voir facilement du 6-7 changements sans aucun problème, et que cette équipe de City reste encore très compétitive.
On avait déjà parlé du banc de touche, du banc des remplaçants.
Qui est impressionnant déjà.
À Paris. Donc ceux-là, ils peuvent les faire rentrer. Et je pense qu'il ne craint pas, il va pas craindre de perdre ce match. En tout cas, même avec ces joueurs-là, les Sterling et compagnie, il aura une équipe compétitive. Il n'y a pas de souci.
Oui. Non, ouais, ouais, mais il a, de toute façon, Guardiola est dans la gestion, et puis on l'a vu, il est focalisé sur les matchs de Ligue des Champions maintenant, parce qu'il sait qu'il va être champion d'Angleterre, et on l'a vu dans la façon d'aborder ce match contre Paris, du moins de le gérer. Il y a eu très peu de changements. Il y a eu Zinchenko qui est rentré en deuxième mi-temps.
Oui, parce que Cancelo avait eu un jaune en plus.
Et oui, oui. Donc, écoute, après, il a fait confiance à son 11 titulaire. Ouais. Donc, ça serait logique, en effet, que surtout qu'il y en a certains qui ont eu des pépins. Dernièrement, Kevin De Bruyne, d'autres qui peut laisser aussi au repos. On arrive dans des périodes où encore plus par rapport au contexte, les joueurs ont beaucoup joué. Là, c'est quand même l'idéal pour Manchester City de préparer ce match contre Paris.
Il va mettre De Bruyne dans le chloroforme.
Ouais, je pense.
Ouais, je pense. Si Stones est suspendu, donc déjà lui, il restera à la maison sans aucun problème.
Ça sera la porte, a priori. Ouais.
La porte, effectivement, avec Ruben Dias. Après, tu peux voir facilement un Benjamin Mendy par exemple est titulaire pour ce match contre Crystal Palace pour mettre au repos Zinchenko et Walker ou Cancelo, voire même Cancelo. Donc c'est vrai qu'il a tellement d'options, tellement de possibilités que le match le plus important encore une fois des 7 prochains jours, c'est celui de mardi et pas du tout celui de
exactement
de ouais. Donc bon, peut-être qu'ils ne seront pas champions ce week-end, et pourtant ils ont une bonne occasion parce qu'il y a Manchester United Liverpool ce week-end, Julien.
Dimanche, effectivement, le gros derby, le gros match entre... Alors, c'est pas vraiment comme ça, en tout cas, que les Anglais l'appellent. C'est un nom marketing, celui-là. Oh, non, mais c'est pas grave. Mais pour les puristes qui nous écoutent, voilà, exactement. Pour les puristes qui nous écoutent, ils savent que c'est pas comme ça qu'on l'appelle. Mais ça reste ça reste le plus gros derby pour moi de l'histoire du football anglais. Jurgen Klopp n'a jamais gagné à Old Trafford contre Manchester United son arrivée. Ouais, c'est fou, ça. Hein, depuis son arrivée à Liverpool il y a maintenant 5 ans. Donc, c'est vrai que ça lui manque. Et puis eux surtout, plus que United qui est assuré de finir dans les 4 premiers quoi qu'il arrive, mais surtout pour Liverpool, cette course à la 4e place notamment pour rattraper Chelsea, c'est compliqué, il leur faut des points et tu peux pas passer à travers d'un match pareil. Donc c'est vrai que c'est gros match avec beaucoup d'enjeux, plus pour Liverpool encore que pour Manchester United, mais qui est sur une telle dynamique. United, comme on l'a vu hier contre Johan et les cousins de Johan, c'est vrai que bon, tu veux aussi continuer à surfer là-dessus pour après, pour continuer et finir la saison en trombe.
Il est pas mal ce Cavani là, hein. Je sais pas, il était pas mal. Hein.
Ils auraient dû le prendre au Paris Saint-Germain,
il aurait fait du bien. Ouais. Bah, il aurait peut-être pas joué. Hein,
alors, ESPN annonce aujourd'hui que Cavani a décidé de rester d'ailleurs. C'était la grande question, on en parlait hier dans l'avant-match et pendant la rencontre aussi, sur cette année de supplémentaire de contrat qu'il a dans son contrat, ce plus un que les deux parties doivent être d'accord pour lever ensemble. C'est pas simplement le club ou le joueur qui peut lever le de la deuxième année, et visiblement il aurait choisi d'après ESPN, et c'est plutôt une source assez sûre, fiable, effectivement, annonce qu'il a choisi, il a décidé donc de rester cette deuxième saison à United. United qui voulait absolument le garder, lui qui apporte pas simplement les buts comme on l'a vu hier, il est dans une grande forme, mais aussi l'expérience, notamment pour les jeunes joueurs, qui est vraiment qui a bonifié ce vestiaire et qui est adoré par tous, et il voulait absolument qu'il reste. Lui n'avait pas encore complètement choisi, visiblement il a choisi, et donc c'est vraiment, si c'est ça se confirme, très bonne nouvelle pour United. Ouais, c'est
pas Julien, j'ai juste une question people. Comment apprécier Werner la petite réflexion de Madame Thiago Silva?
C'est une bonne question, capitaine, ça, tu sais.
Alors, on va rappeler que Madame Thiago Silva, pendant le match justement de Chelsea Real Madrid, elle a critiqué Werner en disant à chaque fois qu'elle va dans un club, il y a des attaquants qui mangent la feuille en quelque sorte. Elle l'a pas dit comme ça, mais voilà.
Il était pas dans le karma. Alors les coutumières du fait, effectivement, c'est pas la première fois où Unai Emery, je pense, s'en rappelle encore. Je sais pas si Timo Werner, qui a plutôt un bon sens de l'humour, qui a plutôt un bon second degré, je sais pas s'il l'a pris comme une blague ou plus personnellement, capitaine, je sais pas, mais je vais me renseigner et puis je te dirai.
Ah
ça.
Bon, d'accord, très bien.
Johan, en Italie, l'Inter Milan qui peut être sacré ce week-end, on a 5 journées de la fin puisque l'Inter se déplace à Crotone et chez le dernier, alors que l'Atalanta qui est deuxième se rend sur la pelouse de Sassuolo, donc il y a une vraie chance pour que l'Inter retrouve un titre 11 ans après.
Exactement. Alors pour ça, il faut donc que l'Inter gagne à Crotone, mais ça normalement ça devrait pas être trop compliqué. Et puis tu l'as dit, que l'Atalanta ne s'impose pas sur la pelouse de Sassuolo. Alors le problème pour Sassuolo, c'est que cette équipe-là, quand elle joue l'Atalanta, elle déjoue totalement. Je vais vous dire, sur les 5 dernières rencontres entre l'Atalanta et Sassuolo, Sassuolo a pris 5 buts, 4 buts, 4 buts, 3 buts et 6 buts. Donc il y a quand même des chances que l'Atalanta remporte ce match, et donc que l'Inter ne soit pas sacré champion ce week-end. Malgré tout, c'est une possibilité. Alors on le sait maintenant depuis plusieurs semaines, on n'attend qu'une chose, c'est à quelle journée va être sacré l'Inter. Il n'y a même pas de doute si ça va être le cas ou pas. Ça fait bien longtemps que ce doute-là a disparu. Le Scudetto, il est très attendu, évidemment, parce que au-delà même du fait de de gagner depuis 2010, et ça c'est évidemment très important, c'est aussi d'interrompre la série de 9 Scudetti de la Juve. Et ils empêchent même, parce que tout le monde attendait le 10e, quand tu fais une passe de 10 dans le même championnat, pour tes adversaires c'est un gros coup au moral, et là ils vont empêcher la Juve de réaliser cette passe de 10 Scudetti consécutifs. Donc il y a beaucoup de symboles dans cette saison de l'Inter, qui a réussi malgré tout à aller, on va dire, à passer la deuxième quand ils ont été éliminés de la Ligue des Champions, parce que jusqu'à cette élimination-là, qui était d'ailleurs très très décevante, et qui restera un peu comme une petite tache noire quand même sur la saison de l'Inter, parce que cet effectif-là, avec autant d'expérience, bah, il doit aller beaucoup plus loin que ça en Coupe d'Europe, parce que là, c'est même pas ne pas se qualifier en Ligue des Champions, c'est même être éliminé, ne pas être reversé en Europa League. Donc ça, c'est vraiment la tâche qui restera pour Antonio Conte et ses joueurs. Mais malgré tout, on peut pas non plus nier qu'ils ont tiré profit de cette élimination, qu'ils ont accéléré, qu'ils gagnent beaucoup de matchs maintenant, qu'ils jouent un seul match par semaine, que tout va bien, il n'y a pas de blessés, qu'ils mettent le même 11 chaque semaine et que tout va bien. Donc ça fera, je ne sais pas si on peut dire que ça fera un beau champion, parce que dans le beau, chacun il met un peu ce qu'il veut et on n'a pas tous les mêmes sensibilités par rapport à ce qu'on aime dans le football. Mais en tout cas, ça va être très intéressant de voir ce qui va s'ouvrir maintenant pour l'Inter. Et surtout, ça fait un peu de variété, parce qu'après 9 Scudetti de la Juve, finalement, c'est pas si mal, ça, que ça change un peu.
Ah, ouais, s'ennuyer, oui, on s'ennuyer.
Non, mais on s'ennuie pas en Italie, que parce que la Juve.
C'est pour ça que Pirlo a dit non, allez, 10, ça ferait trop. Donc.
Ouais. Non, mais la Juve, en plus, est clairement en danger de pas jouer la Ligue des Champions. C'est tellement serré.
Un peu comme Liverpool.
Ouais, alors ça serait vraiment une grosse tuile, parce que ne pas être champion, finalement, tout le monde se disait, bah, oui, on s'en rapproche au fur et à mesure des années, tu te rapproches du moment où tu vas plus gagner.
La Super League.
Ça te reste un peu en travers de la gorge, j'ai l'impression, Jean-Michel. Ah, la Super League.
Il a pas digéré.
Ouais. Ouais, exactement. Mais là, c'est même pas ne pas gagner le Scudetto, c'est ne même pas être compétitif pour tenter de le remporter, et surtout si tu n'es pas qualifié pour la Ligue des Champions. Oh. Là, c'est déjà la Ligue des Champions, celle de cette année, t'as fini en huitième de finale contre Porto. Avant, t'as fini contre Lyon en huitième de finale. Là, si tu n'y vas même pas, alors on va évacuer tout de suite le problème économique, parce que ça va en être un. Si tu n'es pas qualifié, les recettes importantes de la Ligue des Champions, tu ne les auras plus. Déjà que la Juve, je le rappelle, doit réaliser plusieurs dizaines de millions d'euros de ventes avant le 30 juin. Pour l'équilibre de son bilan financier.
Ah oui.
Donc il y a déjà cet impératif-là, même si tu te qualifies en Ligue des Champions. Donc si tu ne te qualifies en Ligue des Champions, ça sera encore pire.
Ouais.
Exactement. Et puis il y a aussi des joueurs qui vont tousser un peu, je pense. Ronaldo, pas de Ligue des Champions, vous y croyez vraiment? Même un Matthijs de Ligt qui est dans la force de l'âge, ne pas jouer de la Ligue des Champions pendant une saison.
Ça peut arriver ces joueurs-là. Du moins, de Ligt, hein, je te parle pas de Ronaldo, parce que Ronaldo, en effet, ça peut être problématique pour plein de choses, parce que lui, c'est une force de la nature.
Il est en bout de course aussi.
Et qu'il est à la fin. Oui, il a envie de profiter de ses dernières années.
C'est vrai.
Un max de choses. Après, c'est toujours pareil. Hein. Il y a l'offre et la demande. Hein.
Ouais.
C'est clair. Ronaldo, aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des clubs qui aimeraient bien le prendre, mais vu le contexte et vu la.
On en parle au Paris Saint-Germain, non.
Non, mais on en parle à chaque fois à Paris. T'as l'impression que c'est pas une maison de retraite, parce que c'est des joueurs. Moi, je veux pas parler comme ça de ces joueurs-là. C'est des joueurs tellement incroyables. Mais c'est vrai que dès que t'as un gros joueur qui a une possibilité de partir, on dit c'est à Paris.
Peut-être Ronaldo.
Oui, ouais, c'est
voilà,
vrai.
On agite facilement les drapeaux City et PSG dès qu'il s'agit de gros montants de transfert, alors que même ces clubs-là sont impactés par la crise.
Exactement.
Bon. Merci beaucoup en tout cas, Johan.
Merci,
bon week-end à toi. Ça va être passionnant.
Merci,
en Italie.
Messieurs.
On va suivre ça sur
RMC.
Merci
à toi, Julien aussi.
Merci, Julien. À très bientôt. Ah bah il est parti déjà.
Il est déjà
Julien,
parti. Il est comme la Roma hier, il est parti.
Je suis là encore, j'écoute tout. C'est passionnant, mais moi les clubs qui sont pas en Coupe d'Europe, ça m'intéresse pas trop,
pas,
tu vois.
Évidemment,
donc
bien sûr.
Et puis arrête de faire le fourbe pour mardi. Hein.
Non, t'inquiète pas,
on te connaît, Julien.
On va suivre Crystal Palace Manchester City évidemment demain.
Tu nous as annoncé De Bruyne forfait, t'as voulu nous la faire à l'envers, on a vu. On la connaît l'histoire.
Merci les gars, bonne soirée à vous. Le basket, Kazan Monaco, Arnaud Valadon, le recoup, où on en est?
Et 2 points d'avance pour Monaco à 5 minutes de la fin. Ça peut aller en prolongation cette histoire. On rappelle que Monaco a gagné le premier match mardi.
Je rentre pas l'antenne tant que c'est pas.
Ah bah si, moi j'ai des trucs à faire après.
Bah 5 minutes, c'est bon.
Et si Monaco gagne ce soir, c'est le titre. En revanche, s'il y a défaite, il y aura une belle dimanche. 25 points pour Rob Gray, l'américain shooter fou de l'AS Monaco. Donc les 5 dernières minutes, le money time et 2 points d'avance pour l'AS Monaco.
Avec l'accent.
Il est en train de.
Merci beaucoup, Georges Eddy. Allez, tout de suite, c'est le quiz de Roten Régal. 32-16 pour jouer avec nous. A tout de suite.
RMC. Roten Régal. François Pinet, Jérôme Rotel.
19h49, allez, toujours dans Rotel Régal, il reste 10 minutes, c'est François, et qui dit les 10 dernières minutes, c'est le quiz. Alors, c'est l'heure du quiz.
Juste avant Jérôme quand même.
Monaco.
Bah oui, Monaco, face à Kazan, finale de l'Eurocoupe. Où on en est, Arnaud Valado? Est-ce que Monaco va le faire?
Eh ben ça sent plutôt bon. 6 points d'avance, 2 possessions, 79. 73 messieurs, on est dans les 4 dernières minutes de cette partie. Le jeu qui est arrêté, temps mort Kazan.
On revient te voir après le quiz.
Ouais. Pas de soucis, et ça sent bon pour Monaco.
Non, allez, ça va le faire pour Monaco.
Merci, aussi,
ça, évidemment. Allez, tout de suite le quiz.
RMC, Roten Régal.
On va aller en finale.
Ah, il a le melon.
Qui ça?
File-lui mes coordonnées en matière de melon. Je pourrais lui expliquer comment on gère.
Le quiz.
Avec nous, au 32-16, Arthur. Salut Arthur.
Salut tout le monde,
salut François, Arthur.
Merci encore pour mardi.
Ben de rien. Arthur, c'est un fidèle. Je fais un petit truc Instagram
avec
lui.
C'est pour ça, il va jouer avec moi. Salut Arthur.
Tu vas jouer avec qui, Arthur?
Avec Jérôme.
Ok. Aced. Salut Aced.
Je sens le gars.
Salut à tous. Salut
Aced. tu vas jouer avec Captain.
Avant de commencer le quiz, je voulais dire juste un petit mot à Jérôme Rotel. Écoute, Jérôme, t'as toute l'admiration que j'ai pour toi. Elle est inégale.
Voilà.
Avoir choisi le PSG à un moment où tu étais au top de ta carrière.
Ouais.
Voilà.
C'est gentil. Désolé, t'es avec, avec un ancien entraîneur du Paris Saint-Germain.
Et voilà.
Ta mission.
Et voilà. Ça y est, ça commence. Et déjà, l'autre, il se prosterne devant Jérôme. Qu'est-ce que tu veux gagner?
Vas-y. Allez, on y va. On y va, les amis.
D'abord, on commence. Quand il entraînait Paris Saint-Germain.
Question d'actualité. Qui a été élu aujourd'hui joueur de la semaine en Ligue des Champions?
De Bruyne.
Kanté, bonne réponse. Kanté. C'est Aced le plus rapide. Bravo.
Aced déconne pas.
T'as vu? Un point pour Aced et Captain. N'Golo Kanté, bien sûr. Qui a dit cette semaine: j'ai eu des demandes de la part d'autres clubs que j'ai refusées. Je n'aurais pas mis fin à mon contrat pour un autre club.
Nagelsmann,
bonne réponse, Aced. Rejoindre le Bayern est mon rêve de toujours. Julian Nagelsmann, qui a quitté Leipzig pour le Bayern.
Je suis fatigué.
Marseille-Strasbourg, c'est ce soir.
Ah oui.
À l'aller, Marseille s'était imposé 1-0.
Sanson.
Bonne réponse,
c'est Arthur. Arthur.
Ouais, c'est Morgan Sanson, effectivement.
Jean-Michel, t'es là?
Morgan Sanson.
Oui.
Que l'on surnomme aussi le Iniesta Sanson, de l'OM.
Moi, j'avais dit Chabi, mais ils ont
J'ai l'impression que Roten Larqué, c'est Neymar et Mbappé mercredi soir.
Allez, 2-1 pour Aced et Captain contre Arthur et Jérôme. On va parler un petit peu de Strasbourg, donc adversaire de l'OM ce soir. Qui est le meilleur buteur du club actuellement?
Ajorque, bonne réponse,
c'est Jérôme.
C'est Jérôme.
Non, c'est moi.
C'est Jérôme,
juste avant.
C'était moi aussi.
C'est Jérôme.
C'est Roten Régal, c'est Jérôme.
De partout. Bon, qui est le meilleur passeur?
Lienard.
Thomasson.
Non.
Lienard.
Non.
Putain.
Diallo.
Non. Avec 4 passes décisives. Non, un joueur que vous venez de citer.
Ajorque,
bonne réponse, Arthur.
Bien joué, Arthur.
Et moi, je joue tout seul aussi.
3-2.
Je joue tout seul.
Aced, t'as entendu? T'as entendu, Captain?
Ouais.
Quel mauvais joueur.
Il est où? Il est déjà parti.
Quel mauvais joueur.
Allez, 3-2, c'est serré, tout encore possible.
Et les gars, je l'avais marqué, Lienard. Je crois que j'ai pris les.
Non, mais c'est pas Lienard, c'est Ajorque.
Bon, c'est pas grave.
J'ai pris les stats
de l'année dernière.
2020.
Au moins, c'est la bonne équipe.
Il travaille son quiz, Captain.
Je suis en pleine forme. Ah ouais. Non, mais il me semble. J'ai vu Lienard, mais je crois que c'était
L'entraîneur, c'est Loret, c'est plus Gilbert Grasse.
Allez. Bah, tiens, justement, puisqu'on parle de Thierry Loret, les amis. Un petit mot de Thierry Loret, le coach de Strasbourg.
Montpellier.
Bien joué, Captain.
J'allais le dire.
Où est-ce qu'il a fini sa carrière de joueur? Montpellier. C'était en 98. 3-3. Bravo.
T'as vu un peu?
Bravo.
Voilà, la question
c'est l'expérience, Jean-Mimi.
Bravo. Il aura remporté la Coupe de la Ligue avec Strasbourg en 2019, parce qu'il va quitter le club sans doute.
Contre
quel adversaire? Bien joué, Arthur. Ah ouais. Magnifique. Ils anticipent les questions. Faut que je me renouvelle là, parce qu'ils anticipent toutes mes questions.
4-3.
4-3, magnifique. Quel duel. Incroyable. Là, je vais vous donner 3 mots. Il va falloir trouver des joueurs qui ont joué à Marseille et à Strasbourg. Mondial 98.
Le bœuf.
Et consultant.
Il l'a dit.
Le bœuf.
C'est Arthur. C'est Arthur, bravo.
Mais c'est moi qui l'ai dit.
Non,
c'est Jean-Mimi qui l'a dit.
Ah non, commence pas, Captain.
Ah, c'est moi.
En premier. Ça fait 5-3. Sénégal, buteur, champion de France.
Le Yondoula.
Non. Sénégal, buteur, champion de France.
Niang,
bonne réponse.
Merci,
c'est Jérôme.
C'est moi.
Ah. C'est Jérôme.
Ah non, mais non.
Mais
en
si,
même
si,
temps.
Si, c'est moi.
En même temps.
Si, si, on me dit en régie, on me dit en régie que c'est Jérôme.
C'est le décalage en IP.
Ça fait 6-3. Ça fait 6-3. Tu peux te rattraper parce que 2 points pour la charade, Captain. 2 points pour la charade.
Ah bah attends, mais c'est quoi la charade?
Mon premier chanteur.
Attends.
Mon premier est un chanteur qui chante.
Attends.
Mais quoi?
Prénom et nom ou
non, mon
que
premier,
le nom
de, prénom et nom. Prénom et nom à trouver. Ah. Mon premier, un chanteur qui chante Relax, Take It Easy. Relax, Take It Easy. Désolé.
Mais oui, c'est...
Mon deuxième, non. Permet de voler. Mon troisième se tourne quand tu lis. On dit mon quatrième,
Pagis.
Quand le gardien dégage. Exactement. Michael Pagis qui a joué à Marseille, à Strasbourg, à Rennes et Sochaux également.
C'est pas Jérôme.
6-5.
Non.
Bravo.
6, c'était 2 points.
C'était 2 points. 6-5.
Et allez. Qui c'est qui mène 6-5?
Ben moi.
C'est toujours Jérôme avec Arthur.
Avec Arthur.
Mais ça faisait 7-3, ça fait 6-5.
C'est la question pour égaliser ou la question de la victoire?
Écoutez bien.
Qui a écrit cette semaine? Désolé de vous avoir laissé tomber les gars. Ce sera
Gay.
C'est Arthur. Idrissa Gay sur Instagram. Effectivement.
C'est Arthur. Julie vient de me dire c'est Arthur.
Non. 6 partout. La question de la victoire. Après on n'a plus le temps.
Ah bon.
Attention. Écoutez bien. On va parler un petit peu d'Allemagne, de Bundesliga, qui est troisième derrière le Bayern et Leipzig. Wolfsburg, c'est Arthur.
Bravo.
Sur le gong, Arthur et Jérôme, allez. Vous l'emportez, bravo.
Qu'est-ce que tu vas me parler de Bundesliga dans Jean Rotten Régal? On n'en a jamais parlé de la saison.
C'est vrai.
On n'a pas parlé deux fois de Bundesliga.
C'est l'actu du foot ou pas, Captain? C'est l'actu du foot.
Mais putain, mais demande-nous la principauté d'Andorre, alors aussi. C'est pas possible.
Bon, merci, Captain. Tu t'es bien battu. Encore une belle défaite. Une défaite encourageante. Bravo à Ced. T'as tout fait. Tu reviendras quand tu veux pour le quiz de Rotten.
J'ai des chirons.
Arrête, Michel.
J'ai pris les stats de 2019-2019. Je suis pas content, quand même.
Merci, Captain. À la semaine prochaine.
Je ne voulais pas te dire, mais bon.
Salut, je vous embrasse. Allez, bonne soirée. Bye.
Arnaud Valado, Kazan, Bonaco, où on en est en coupe de basket.
80 partout, il reste 49 secondes. Balle pour Monaco. Ça va être jusqu'au bout, comme au match aller. 89-87, c'était la victoire de Monaco, la 80 partout. Ils menaient de 6 points. Et pendant le quiz, messieurs, ils se sont fait rattraper les monégasques. Et là, franchement, ils ont le ballon quand même pour passer devant et mettre la pression sur Kazan. Monaco, qui en cas de victoire sera champion, 6 défaites. Il y aura une belle dimanche. Ils ont la possession.
Ils vont
les
gagner.
50 dernières secondes.
On va suivre ça avec Christophe Cessieux dans l'Intégral Sport.
Salut Christophe.
Ça va, les gars?
Ça va?
En pleine forme.
Intégral Foot.
Monaco, t'es supporter de Monaco.
Les bonnes ondes, là. Envoie les bonnes ondes, Christophe.
Exactement. On va garder ces bonnes ondes, on va les envoyer sur les monégasques et on va vivre à la fin de ce match.
Merci les garçons,
passez un bon week-end.
Bon week-end.
C'est de l'intégral foot et du basket tout de suite dans l'intégral.